Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange.
Bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons plonger dans une science qui a plusieurs millénaires d'existence. Je vous emmène en Chine à la découverte du qi. Le qi serait une énergie présente en toute chose et qui serait à l'origine de toute chose. Alors après plusieurs millénaires d'études, les médecins chinois ont bâti une conception du monde et de l'être humain qui leur permet de soigner et surtout de guérir alors qu'ils suivent une voie radicalement différente de celle que nous connaissons en Europe occidentale. Cette voie est-elle meilleure que la nôtre? Peut-elle être complémentaire? Est-elle au contraire opposée? C'est ce que nous allons découvrir avec mon invité, qui est l'auteur d'un livre qui vient d'être publié aux éditions Guy Trédaniel. Ce livre s'intitule « L'énergie secrète de l'univers ». Maxence Layet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste scientifique, spécialisé dans les énergies renouvelables, les médecines douces et dans les technologies de l'information. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment allez-vous ?
Plutôt bien, en état d'équilibre, hein, ou d'harmonie en tout cas.
Ce qui veut dire que vous mettez en pratique ce que vous avez appris lors de votre enquête pour écrire ce livre ?
J'essaye en tout cas. L'idée de la santé du côté de la philosophie chinoise ou des sciences traditionnelles chinoises, effectivement, c'est celle de l'équilibre. C'est-à-dire que tout est mouvement, donc tout est déséquilibre, la vie n'y échappe pas. Et la santé, c'est une sorte d'état comme ça, d'équilibre dans le déséquilibre, comme lorsqu'on fait du vélo ou comme lorsqu'on marche, où on est en quelque sorte balancé en permanence sur la droite, sur la gauche, mais c'est le fait d'être en mouvement qui permet d'éviter que l'on tombe.
Ouais. Vous allez donc nous expliquer toutes les expériences auxquelles vous-même vous vous êtes prêté pour comprendre tout cela, pour écrire ce livre paru donc aux éditions Guy Trédaniel. Ce livre, je rappelle son titre, L'énergie secrète de l'univers. Et vous qui nous écoutez, vous le savez, vous êtes évidemment les bienvenus dans cette émission jusqu'à minuit. Si vous avez utilisé la médecine traditionnelle chinoise, si vous avez utilisé l'acupuncture, si vous avez pratiqué le qigong ou le feng shui, eh bien vous pouvez venir témoigner, nous dire ce que cela vous a apporté, ce que ça vous apporte au quotidien, au niveau de votre santé, au niveau de votre philosophie de vie. Vous avez la possibilité de nous contacter à notre standard avec Morad qui est là pour écouter vos commentaires, vos témoignages, pour que vous puissiez nous rejoindre à l'antenne et puis discuter également avec mon invité Maxence Layet. Donc vous pouvez nous appeler dès à présent au 0826 300 300 0826 300 300, ou alors vous pouvez nous contacter également par le biais du SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre commentaire, votre question et vous l'envoyez au 71 200.
Les aventuriers de l'étrange avec Louis Benedi sur Sud Radio.
Maxence Layet, j'avoue que j'ai découvert beaucoup de choses en lisant votre livre, votre enquête, qui s'intitule donc « L'énergie secrète de l'univers ». Et on va commencer, comme vous l'avez fait, tout simplement par le début. C'est « Qu'est-ce que le qui ?» Parce que c'est la question que vous posez d'entrée pour qu'on puisse après comprendre tout ce développement. Alors, le qui, c'est quoi et ça vient d'où ?
Bon, eh bien, le ki, c'est l'énergie telle que la conçoivent les orientaux, en tout cas les sciences traditionnelles chinoises.
Oui.
Et cette énergie, elle est présente, elle est constitutive, elle existe partout autour de nous, mais aussi elle nous compose fondamentalement. C'est-à-dire, c'est vraiment une énergie ambiante que l'on peut respirer, que l'on peut inhaler, que l'on peut partager avec les personnes qui nous environnent.
Mmh.
Et donc c'est une énergie qui est autant rayonnée par l'environnement, qui est présente autour de nous, que une énergie que l'on a en nous et qu'on peut même travailler en nous pour être zen si l'on veut, ou bien sûr pour être en bonne santé, voire éventuellement pour transmettre des bonnes ondes ou des bonnes énergies à ses voisins.
Ouais. C'est une énergie, donc on l'a bien compris, qui concerne tout notre environnement et qui est présente dans tout ce qui est vivant.
Oui, c'est-à-dire
vivant
en fait,
au sens large du terme, hein, vraiment.
Voilà, oui, parce que c'est vraiment au sens très très large, puisque on peut dire que ça inclut même les pierres, ça inclut les cours d'eau, ça inclut les arbres, bien entendu. C'est-à-dire que c'est vraiment un peu un concept en cascade, hein, c'est-à-dire qu'il y a... mille et une énergies, mille et un qui existeraient autour de nous, c'est-à-dire que tout ce que nous pouvons voir, que ça soit une couleur rouge, une couleur bleue, que ça soit un arbre chétif, ou alors au contraire un sapin très très grand, un animal, voire même une télévision, un vélo, tous ces objets-là ou ces êtres vivants-là sont animés par cette énergie que les Chinois appellent le ki, et donc il y a le ki de l'arbre, le ki du vélo... le ki du chat ou le ki du chien, qui sont d'ailleurs pas du tout qui sont pas les mêmes ki, puisque si on veut après on peut dire qu'il y a des ki yang et des ki yin par exemple.
Oui. Mm-hmm.
Et donc il y a toute une diversité de manifestations de ces ki. On peut dire que ce sont des facettes, mais donc justement ce sont des facettes d'un seul et même ki, c'est-à-dire qu'il y a une source. Cette source se divise en deux, c'est le yin, c'est le yang, et puis elle se divise en cinq, ça devient les cinq éléments, et puis elle se divise encore de plein de façons différentes, jusqu'à aboutir à cette myriade de choses qui composent l'univers.
Alors, avant de parler, de détailler un petit peu plus cette cascade justement que vous venez de citer, cette cascade de différents qui,
de différentes énergies, hein,
de différentes énergies, voilà, pour être plus large. Maxence Laillé, dites-nous un petit peu comment est-ce que les Chinois ont mis le doigt sur cette énergie primordiale et comment est-ce qu'ils l'ont expérimentée parce que c'est une science qui date de plusieurs milliers d'années.
Oui, c'est cela, oui, c'est entre 3 et 5 000 ans, ça dépend un peu des archéologues, des auteurs, des lettrés qui
oui.
rédigent des textes, ou simplement, bien sûr, des savants occidentaux qui sont penchés sur l'histoire de la civilisation chinoise. Pour schématiser, on peut dire que le qi, c'est aussi vieux que la civilisation chinoise.
Mmh.
Et donc, il y a des objets archéologiques, par exemple des écailles de tortue, des choses comme ça, qui ont été mises à jour dans des chantiers archéologiques, qui atteste que ça a 5 ou 6 000 ans. Alors en fait, ce qui est assez étonnant, ou en tout cas qui, moi, je trouve très intéressant en termes de curiosité, quoi, dans l'approche des Chinois, c'est que c'est une logique d'observation de l'environnement. C'est-à-dire que dans l'environnement, on s'assoit, on regarde, on n'est pas forcément contemplatif de façon passive, mais en tout cas, on s'assoit un instant et on prend le temps d'observer les choses autour de nous. Et on voit qu'il y a du vent, on voit qu'il y a des cours d'eau, on voit que l'eau descend du haut vers le bas, on voit que le vent fait bouger les arbres d'une certaine façon, on voit qu'il y a des plantes, par exemple un arbre, les fruits, un arbre fruitier, les fruits sont donc, on va les cueillir en hauteur. Par contre, il y a ce que nous on va appeler des légumes, il y a donc des plantes où ce qui est comestible, on va le cueillir à la surface de la terre.
Mmh.
Et puis il y a aussi des plantes où on va trouver, où il faut creuser sous la terre,
ouais.
Il faut aller prendre aux racines ce qu'on va pouvoir manger. Et donc ça fait comme ça différent d'un point de vue chinois, par exemple, ou en tout cas d'un point de vue de quelqu'un qui lit le monde, les taoïstes, qui lisaient le monde en termes d'échange et de flux d'énergie comme ça, par le ki, ça va correspondre donc à des étages d'énergie différents, et qui n'ont donc pas les mêmes propriétés.
Ah oui. Et dans cette conception philosophique et scientifique, on va le comprendre après pourquoi, de la vie, les Chinois vivent à travers ça. C'est vraiment quelque chose de fondamental dans leur approche de la vie.
Ben oui, c'est-à-dire en fait c'est leur bagage culturel.
Oui.
C'est un bagage culturel initial qui est donc extrêmement ancien Et bien entendu, la révolution culturelle de Mao est passée par là, en jetant à bas pas mal de ce que lui appelait des traditions, ou en tout cas d'éléments comme ça culturels qui participaient d'un patrimoine, avec y compris des textes qui ont été brûlés, hein, bien sûr, et des experts, des maîtres en qigong ou des maîtres en acupuncture ou en médecine chinoise traditionnelle qui ont été pourchassés et qui sont partis se réfugier comme ça dans des monts brumeux au fin fond des campagnes chinoises. Donc malgré les 50 ans de la parenthèse de la révolution culturelle chinoise, puisque là aussi, plus récemment, la situation, la tolérance politique des arts du qi a sensiblement évolué en Chine communiste, en Chine populaire. Donc en fait, malgré cette parenthèse d'il y a 50 ans, qu'on y adhère ou qu'on n'y adhère pas, il y a une façon de lire le monde qui est fondée sur cette lecture énergétique des choses. Voilà. Et ça, moi, je trouve ça assez intéressant, puisque si on veut comparer avec l'Occident, puisque c'est une des lignes directrices de l'ouvrage, que faire des passerelles comme ça, la notion d'énergie en Occident, ça fait, on va dire, 200-300 ans, depuis un peu que ça soit Benjamin Franklin qui manque de se faire électrocuter, ou l'électricité biologique que découvre Galvani, donc ça fait 200-300 ans qu'on l'explore. Du côté des Chinois, ça fait 6000 ans. Mmh. Et quand bien même c'est fondé sur de l'observation de phénomènes, c'est-à-dire donc sur une approche empirique.
Oui, tout à fait.
C'est une caractéristique aussi de la culture chinoise. Il y a une volonté de catégoriser les choses, de les classer, et donc de faire tout un système, de rendre les choses, de les organiser de façon systémique. Et ça, en termes d'un point de vue intellectuel, c'est assez proche de la démarche occidentale, voire on peut dire d'une démarche scientifique.
Oui.
Et donc quand bien même il y a une lecture des phénomènes du monde comme étant traversés de courants d'énergie de diverses natures, il y a en tout cas une volonté de décrire les choses de façon extrêmement précise, parce que les phénomènes sont observables et parce qu'ils sont reproductibles. L'eau coule toujours du haut vers le bas, telle une cascade, et bien on est dans une démarche scientifique en quelque sorte.
Mmh. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que même si c'est basé sur l'observation, il y a une très grande rationalité dans le classement, dans la. Il y a une structure, je dirais, très rigide et très scientifique de leurs observations et du résultat de leurs observations. Ça, c'est clair.
C'est-à-dire que les choses se passent comme ça et pas autrement. Quand bien même ce qui va se passer en phénomène, c'est un mélange, un mix d'une multitude d'énergies qui coexistent, qui s'entremêlent à un moment donné.
Oui, oui, oui. Maxence Laillé, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de vous plonger dans cette aventure et d'essayer, de trouver les passerelles comme ça entre deux philosophies qui semblent éloignées l'une de l'autre.
Je pourrais dire que je m'en souviens plus vraiment, parce que c'est quasiment très très ancien maintenant. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la notion d'énergie m'a toujours intéressé, et ce qui fait que j'avais comme ça différents dossiers dans lesquels je classais des photocopies ou dans lesquels j'archivais des informations thématiques. Et en fait, que ça soit par exemple sur des frigos qui fonctionnent sans électricité, ou que ça soit par rapport à des domaines un peu plus exotiques comme la fusion froide, voire des choses vraiment des recherches d'industrie lourde comme celle relative à la fusion thermonucléaire, etc., etc. Donc moi j'avais comme ça pas mal de petites chemises où je rangeais mes informations. Et puis au fur et à mesure que je pouvais comme ça couvrir certains sujets, et au fur et à mesure de mes articles, je voyais que les notions de non seulement de volts, mais aussi d'ampères, d'électricité, d'électromagnétisme, étaient des points communs à toutes ces recherches qui concernaient autant, par exemple, les choses liées à l'écologie et les pays en voie de développement, que les politiques énergétiques dures, lourdes, avec des recherches fondamentales très poussées, qui se déroulait en Occident, là, notamment dans tout ce qui concerne la physique fondamentale et la recherche des forces fondamentales structurant l'univers. Et à côté de ça, il se trouve que il y a des j'ai toujours été un petit peu titillé par ce qu'on peut appeler le paranormal, les sciences un peu ésotériques, non pas forcément par une forme de fascination, mais plutôt par une curiosité intellectuelle, où, à mon sens, ces phénomènes-là, on va bien réussir à les expliquer un jour. Donc j'étais comme ça un peu sur une évaluation bienveillante des choses, avec l'esprit ouvert, et puis ce qui est passionnant depuis 30 ans, c'est qu'en fait on a les technologies, d'un point de vue scientifique, on a les technologies en Occident qui permettent d'approcher des phénomènes énergétiques qui étaient complètement imperceptibles ou inconcevables auparavant d'un point de vue scientifique dur, d'un point de vue académique.
Voilà. Et là, donc, vous vous êtes dit, mais ça, les Chinois en parlent avec un autre langage, mais ils en parlent aussi.
Bien sûr.
Il y a des parallèles évidents qui vous ont semblé évidents.
Exactement, notamment d'un point de vue de l'électronique, puisque ça, on pourra en parler sans doute un petit peu plus loin dans l'émission, mais avec le développement, par exemple, des micro-ordinateurs. Bon, comment ça marche un ordinateur ? C'est de l'information qui circule à l'intérieur, qui est traitée par un processeur et qui s'affiche via un écran. Mais cette information, dans sa nature même, ces flux d'informations qui sont traités par l'ordinateur, ça correspond en fait à des minuscules influx électriques.
Oui, tout à fait, oui.
Et donc ces échanges d'énergie qui sont infimes, avec donc les ordinateurs qui pesaient 2 tonnes il y a 50 ans, qui sont devenus micro-ordinateurs dans les années 70-80, et puis qui continuent à se miniaturiser aujourd'hui, on est avec des quantités d'énergie qui circulent à l'intérieur des ordinateurs de plus en plus réduites, ce qui permet d'aller de plus en plus vite, ce qui explique la montée en puissance des machines informatiques, des ordinateurs, depuis 20 ans. Mmh. Donc, cette miniaturisation des composants électroniques s'accompagne en quelque sorte d'une plongée dans l'infiniment petit, y compris dans l'énergie. Et donc, ça implique des appareils, quantités d'appareils et d'outils qui permettent de mesurer des quantités d'énergie infimes et, c'est ce que j'ai découvert via mon enquête, qui rejoignent des recherches qui ont été faites sur les traditions chinoises, que ce soit l'acupuncture ou le Qigong, et qui sont sur des ordres de grandeur d'énergie équivalents.
Ouais. Maxence Laillé, vous restez avec nous. Nous allons vous retrouver dans quelques instants pour continuer ce parcours qui s'annonce passionnant avec vous et découvrir qu'il y a des parallèles vraiment enrichissants, étonnants, surprenants entre la science de cette médecine traditionnelle chinoise et puis des expériences scientifiques dures, comme vous dites, qui ont été réalisées par des équipes partout ailleurs dans le monde. Si vous voulez témoigner, réagir à cette émission, n'hésitez pas, Maxence Laillé est en notre compagnie jusqu'à minuit, vous allez pouvoir lui poser des questions. Si vous avez par exemple utilisé l'acupuncture, le feng shui, le qigong, comme il l'a cité il y a quelques instants, votre témoignage nous intéresse, venez nous faire part de votre expérience. 0826 300 300, ou encore vous pouvez nous contacter par le biais du SMS en tapant sud sur votre portable, en laissant un espace et ensuite en rédigeant votre question et votre commentaire et l'envoyant au 71 200.
Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
Ce soir, nous plongeons à la découverte d'une science qui a presque 5000 ans d'existence, voire plus selon certains archéologues, à travers un livre passionnant publié aux éditions Guy Trédaniel. Ce livre s'intitule « L'énergie secrète de l'univers » avec Maxence Laillé, son auteur, qui est mon invité ce soir. Maxence Laillé, continuons à découvrir le résultat de votre enquête, de vos différentes investigations et de vos expériences. Vous n'avez pas hésité, j'allais dire, à être le cobaye de plusieurs expériences pour pouvoir ressentir vous-même.
Oui, ça me semblait un peu un prérequis, ou en tout cas quelque chose d'indispensable, parce que pour raconter ces expériences, ou cette expérience, ou en tout cas ce voyage comme ça, au fil des différentes de l'énergie chinoise et des différentes étapes que constitue le Qigong, l'acupuncture, le feng shui, etc. Le fait de... On ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Mmh. Et donc, par exemple, pour aborder l'acupuncture, et en racontant, par exemple, comment ça se passe, comment on va piquer, parce qu'il y a une douzaine de façons différentes de piquer une aiguille sur un point de la peau, bon, on peut le raconter de façon un peu intellectuelle, froide, en distinguant les différentes étapes, les différents aspects. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que dire, mettons, au lecteur ou aux personnes qui s'intéressent à la question, oui, allez-y, faites-le, il y a pas de danger et tout ça, et y aller vraiment en vivant l'expérience. Et donc, en racontant de l'intérieur, en quelque sorte.
Oui, ce que vous avez ressenti, vécu.
Voilà, exactement. Oui. Mais quand bien même ces ressentis sont fondamentalement, non seulement subjectifs, mais individuels, c'est-à-dire d'une personne à une autre, voire même, en ce qui me concerne, d'une séance à une autre, on ne va pas ressentir les mêmes choses. En tout cas, c'est une matière première, c'est un peu une information de base qui permet de se situer par rapport à ça.
Mmh. Maxence Laillé, vous allez nous raconter tout à l'heure l'acupuncture, et puis on parlera des méridiens, des différents points. Comment est-ce que vous avez abordé ça et le parallèle que vous en avez fait avec des nombreuses recherches qui ont été réalisées dans le monde scientifique dur. Ça, c'est occidental, hein, on va dire. Revenons un petit peu sur ces bases du qi et du yin. Et du yang, par exemple dans dans la nourriture, selon les Chinois, il y a des nourritures yin, des nourritures yang, et c'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas que du yin que du yang. Il y a une nourriture qui peut être yin par rapport à l'autre et yang par rapport à l'autre. C'est ça, c'est beaucoup plus subtil en fait, hein.
Oui, c'est ça. Alors c'est vrai que c'est la solution de facilité, c'est de faire deux colonnes et de dire tel aliment il est yin, tel aliment il est yang.
Et c'est, non,
et,
c'est pas
et
ça
on
en
peut
fait.
Faire comme ça 55 pages avec deux belles colonnes qu'on apprend par cœur et voilà. Bon, ce qui est intéressant, enfin à mon sens en tout cas, ce que moi j'ai mis un petit peu de temps à comprendre quand même, puisque il faut quand même digérer les choses, c'est le cas de le dire. le truc c'était de qu'est-ce qui va faire qu'un aliment va être yin ou qu'un aliment va être yang? Bon, ben en fait, c'est très simple. Comme le yin, c'est l'immobilisme, et le yang, c'est le mouvement, donc en fait, ce qui est le plus proche du soleil, ou ce qui est le plus haut dans le ciel, va être yang, et ce qui est le plus bas dans la terre, donc y compris sous terre, va être yin. Mm-hmm. Donc ça fait en quelque sorte comme ça deux clés de tri qui permettent d'identifier, ou en tout cas de catégoriser un petit peu les aliments, ce qui fait que un bœuf par exemple, la viande en général c'est yang.
C'est-à-dire masculin, hein, enfin actif masculin.
C'est ça. Hein? Oui, c'est.
Oui, tout
puis
à
même
fait.
C'est de la viande en fait, parce que c'est un animal ça bouge plus qu'un arbre, mm-hmm. Donc l'arbre va être yin, ouais. Et la plante va être yang. Bon, les plantes vont être yin et les animaux vont être yang. Voilà. Mm-hmm. Ouais. Mais il y a des animaux qui sont un peu plus placides que d'autres. Il y a des animaux qui sont un peu plus excités que d'autres.
C'est vrai.
Où il y a des animaux qui vivent, les oiseaux vont être plus yang que un bœuf placide en quelque sorte.
Bien sûr, ouais.
Donc voilà. Donc ça, c'est un premier élément de tri. Second élément qu'on évoquait tout à l'heure, notamment par rapport aux plantes, hein, par rapport aux fruits, par rapport aux légumes, c'est que donc la profondeur à laquelle on va le récolter ou l'altitude à laquelle on va le cueillir donne une indication, enfin permet de dire ben là il va être plus yang ou là il va être plus yin. Mm-hmm. Et après il y a encore il y a un troisième facteur qui rentre en compte, et là c'est intéressant parce qu'on arrive en plus dans le tour de main du maître cuisinier chinois.
Oui.
C'est que la façon de préparer l'aliment va lui rajouter une énergie yang ou lui rajouter une énergie yin. C'est-à-dire que si on fait cuire un aliment qu'on le fait mariner dans de l'eau et que on le fait cuire comme ça à l'étouffer, c'est pas le même traitement énergétique qu'on va lui faire subir que quand on est en train de le faire sauter à la poêle ou au wok avec de l'huile et que ça grésille dans tous les sens.
Ouais.
Ok.
Oui, oui.
Voilà. Et après, bon, on peut yangiser un aliment yin en lui rajoutant du piment ou des choses comme ça qui vont lui donner un peu du feu intérieur. Ou au contraire, on va plutôt, yinifier des aliments ou des ingrédients yang en leur faisant subir un même type de traitement mais inversé, quoi.
Mmh. Voilà. Et c'est ce qui fait que grâce à votre explication, on comprend mieux d'abord la complexité de cette étude et on comprend mieux également que un cuisinier puisse chinois. Évidemment, puisse consacrer sa vie à son art finalement, puisque c'est primordial. Il y a un vrai fond philosophique dans ce qu'il fait.
Oui, il y a, y a cet aspect-là. Ce qui est intéressant, c'est cette notion de combinatoire.
Oui, c'est ça.
C'est pour ça que, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les anciens chinois, ou en tout cas les taoïstes, hein, puisque le qi, la lecture du monde par les flux d'énergie, mm-hmm. Sont propres à la philosophie, à la culture taoïste. Ce qu'on appelle le taoïsme, etc., etc. Donc les taoïstes, ceux qui sont les pratiquants de cette religion,
philosophie.
Ce rapport au monde.
Ouais.
Mm-hmm. Donc, le fait qu'il y a une énergie universelle et nous sommes tous des manifestations diverses de cette même énergie, de cette énergie source, tout ça se combine. Et donc, ces notions de combinatoire, d'éléments qu'on va mettre dans un certain ordre ou alors qu'on va manipuler d'une certaine façon, ça donne un sentiment de grande complexité, alors qu'en fait ce sont vraiment des combinaisons élémentaires,
ouais.
Mmh. qui produisent la complexité. Ce n'est pas compliqué au départ, c'est juste le résultat qui devient compliqué par rapport à quelques ingrédients simples donnés au début.
Oui, tout à fait. Maxence Laillé, parlons maintenant, abordons le thème de l'acupuncture. D'abord, faisons un petit point. Comment est-ce que l'acupuncture est vue, envisagée, considérée, voilà, c'est le mot que je cherchais plutôt, considérée par la science occidentale?
Alors...
Bonne question.
Ouais, bonne question. Non, mais c'est pas... très très compliqué d'y répondre. On pourrait dire qu'il y a plusieurs courants.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait,
c'est le cas de le dire.
Ouais, exactement. Ça, je me permets de. J'aime bien les calembours. Quoi. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu effectivement dans l'histoire de la Chine un événement important, c'est Mao. Bon, donc ce qui fait qu'il y a eu une volonté d'effacer le passé. Ce qui fait qu'en fait, il faut bien avoir conscience que si l'acupuncture a pu se développer et persister à l'époque moderne, hein, avec le XXe siècle, c'est grâce aux pays occidentaux. C'est-à-dire qu'il y a eu une diaspora chinoise qui a quitté la Chine, qui a trouvé refuge dans des pays en Europe,
ouais.
Et il y a eu évidemment des lettrés, des intellectuels occidentaux.
Surtout eux d'ailleurs, s'ils ont pu partir, c'est ce qu'ils faisaient.
Exactement, mais il y a eu des occidentaux qui, ayant vécu en Chine, ont appris le chinois et se sont intéressés, par exemple, à l'acupuncture.
Mmh.
Et ces personnes-là ont été les personnes qui ont importé la connaissance de l'acupuncture, par exemple, en France ou en Occident.
Ouais.
Et en l'occurrence, la France a joué un rôle assez pivot par rapport à la diffusion de l'acupuncture en Europe. Notamment via Soulier de Morand, qui était un diplomate français, qui a été le premier à traduire toute cette connaissance académique, ces livres anciens, etc., etc. Donc, ce qui fait que, assez rapidement en France, enfin, en tout cas, il y a des médecins ont commencé à pratiquer l'acupuncture, en tout cas, des personnes ont commencé à pratiquer l'acupuncture, mais on peut la pratiquer, si vous voulez, on peut pratiquer l'acupuncture et puis attribuer l'explication de ses effets à des raisons biochimiques et non pas énergétiques.
Ouais.
Alors que, le point de vue chinois, fondamentalement, c'est à cause de l'énergie. C'est-à-dire que l'action qu'on a avec l'acupuncture, mais on pourrait parler du shiatsu également, c'est-à-dire une forme d'acupuncture avec les doigts, on n'utilise pas d'aiguille.
Tout à fait.
On utilise le pouce, les doigts, éventuellement le poing ou la paume de la main pour appuyer ou pour frictionner comme ça des zones du corps. Donc, on va intervenir sur des points clés, sur des zones privilégiées du corps, mais dans la façon de lire le phénomène d'expliquer ce qui se passe, on va parler d'un fluide vital qui est dans l'organisme, d'un ki qui va être bloqué à tel endroit ou qui est en quantité insuffisante dans tel autre. On parle de déficit, par exemple.
Mmh, mmh.
On parle soit donc d'un ki en excès ou d'un ki en manque,
ouais.
En fonction des pathologies, des manifestations qu'on va avoir, que ça soit une épaule, un rhumatisme douloureux ou au contraire une rougeur au visage. Hein. Tous les symptômes sont véhicules d'une information. Tous les symptômes sont indices pour comprendre ce qui se passe dans l'organisme en termes d'un peu de bouillon d'énergie, de cocktail d'énergie un peu en mouvement comme ça.
Mmh, mmh.
Donc, soit on peut expliquer le phénomène d'une façon énergétique, soit on va l'expliquer d'une façon biochimique. Et cette explication biochimique, c'est celle qui est acceptée officiellement aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'on va... soit on va considérer que c'est de l'effet placebo, soit On va chercher les molécules antidouleurs que sécrète le cerveau liées à l'arrivée d'une aiguille au bout du pied, au bout de la main. Et du coup, comme effectivement, on a des marqueurs biochimiques qui indiquent qu'il y a telle réponse antidouleur du cerveau. S'il y a un effet de mieux, parce qu'on parle d'un effet analgésique, par exemple, ou antalgique, antidouleur,
oui, oui. Mm-hmm.
S'il y a des effets de ce type-là, c'est parce que, en triturant avec l'aiguille comme ça, on stimule certaines parties du cerveau qui vont faire que le cerveau répond et hop, il diffuse les
produits nécessaires,
les produits,
etc.
Voilà,
voilà,
qui conviennent. Ouais. Il a des réponses de type biochimique qui expliquent l'effet.
Oui.
Bon.
Alors que les Chinois, ce n'est absolument pas leur théorie, évidemment.
Ben, en tout cas, du coup, il y a des Chinois qui ont suivi les formations en Occident ou qui ont tout simplement, qui sont médecins au sens occidental
oui.
du terme,
mm-hmm.
qui
non.
eux, vont préconiser l'acupuncture ou vont et pensent le plus grand bien de l'acupuncture simplement sur cette base-là, ok.
D'accord.
C'est-à-dire que l'enseignement de l'acupuncture, par exemple en France, c'est un diplôme universitaire qui cadre ça.
Oui.
Et c'est un diplôme qui est réservé à des personnes qui sont déjà médecins ou à des professions paramédicales de haut niveau, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas, les kinés, les infirmières, c'est depuis peu et c'est pas forcément dans toutes les facs qui peuvent suivre une partie du cursus. Quoi.
Ah oui, d'accord. Donc faut voilà. vraiment avoir du gros bagage, quoi.
C'est ça, ouais. Ouais. Ben au départ, ça s'est ouvert hein, depuis quelques années, mais sinon au départ c'était réservé à des personnes médecins.
Ouais. Oui. Docteur en médecine, comme ça. Point barre. Ouais, ouais.
Et d'ailleurs, hein, mais si vous voulez. L'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'on a d'un côté une reconnaissance de l'effet de l'acupuncture, alors après cette reconnaissance de l'effet, on va l'attribuer à des motifs biochimiques, ou alors, et bien entendu, on va l'attribuer à des motifs psychosomatiques.
Oui.
Et puis, il y a des recherches depuis une cinquantaine d'années qui montrerait qu'il y a des choses qui se passent d'un point de vue électromagnétique.
Voilà, beaucoup plus intéressante,
voilà.
Effectivement, et qui ouvre un champ de recherche beaucoup plus large et beaucoup plus profond.
Mais qui ont été entamées, par ailleurs, par un médecin français.
Oui. Maxence Layet, une pause et on se retrouve. Vous allez nous raconter votre expérience d'acupuncture, ce que vous avez ressenti, comment vous l'avez vécu, et ensuite vous nous parlerez de la conception du corps humain selon justement cette médecine traditionnelle chinoise. À tout de suite.
À tout de suite.
Les aventuriers de l'étrange.
L'énergie secrète de l'univers, c'est le titre du livre de Maxence Layet, journaliste scientifique, qui est mon invité ce soir. Et avec lui, eh bien, nous partons à la découverte de cette énergie que les Chinois connaissent depuis des millénaires, le qi, et toutes les applications qui en découlent, évidemment. Et parmi les applications que l'on connaît, forcément, c'est peut-être celle qui est la plus populaire en Occident, en France du moins, c'est l'acupuncture. Donc, comme beaucoup de choses, vous êtes allé expérimenter, Maxence Layet, pour comprendre et bien vous pénétrer de ce qu'est l'acupuncture. Donc, racontez-nous ce que vous avez vécu.
Bon, eh bien, allons-y. non, mais une séance type d'acupuncture, ça se déroule en deux moments.
Mm-hmm.
Une première partie qui est une phase de discussion, de dialogue,
ouais.
où on est assis... face à l'acupuncteur qui nous regarde de façon bienveillante, de façon à ce qu'on lui, où il nous demande pourquoi on est là, comment ça va, etc., etc., mais qui aussi pose beaucoup de questions sur d'autres sujets qui donneraient l'impression de ne pas être liés du tout, c'est-à-dire comment ça se passe le sommeil, comment se passent les repas, de quoi sont constitués les repas, est-ce qu'il y a du stress actuellement, etc., etc. Donc on a comme ça toute une forme de questionnaire où
ouais.
il y a beaucoup de prises de notes en fonction des réponses qu'on apporte.
Mm-hmm. Une approche très globale et en même temps l'observation hein, du patient est très importante.
C'est ça, oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette partie dialogue, mais en même temps, le praticien, l'acupuncteur, nous regarde. Alors là, bon, ben, je vais être obligé d'inventer des trucs, hein, les secrets du métier. Donc il nous regarde et il regarde comment on se tient, il regarde à quoi on ressemble au sens quelle est l'allure de notre teint, de notre peau, de nos cheveux, éventuellement la couleur de nos yeux, mais aussi la façon comment on parle, est-ce qu'on a une voix éteinte, ou est-ce qu'au contraire on parle d'une voix très forte,
puisque
toujours pareil, ça correspond à des critères yin ou des critères yang, etc., etc. Et il prend beaucoup de notes, là, pendant ces 10 minutes, un quart d'heure, et par rapport à son métier, par rapport aux typologies, aux cases qu'il a dans sa tête, ben, les choses se remplissent. Bon, ben, ok, il a un débit plutôt rapide, ou au contraire, il est d'une timidité maladive, il me dit qu'il est anxieux, il me dit qu'il fait des insomnies. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui apparaissent dans le cadre de la discussion. Quand bien même, on va le voir, parce qu'on a un mal à l'estomac, ou, qu'on a une partie du dos bloquée, quoi.
Ouais.
Et puis donc hop, on bascule en mode piqûre. Donc ça, ben voilà, il faut quand même y aller, quand bien même on n'aime pas les piqûres, ce qui est mon cas bien sûr. Et comme je pense beaucoup de personnes.
Ah oui.
Donc les piqûres, c'est toujours un petit peu bon. Ok, on n'est pas forcément volontaire, mais bon, toujours est-il que là, fallait quand même y aller. Puisque je le répète, moi, j'avais jamais fait d'acupuncture auparavant.
Non, oui.
Et donc il y a vraiment beaucoup d'appréhension, mais de peur, et de peur qui est avant tout psychologique, puisqu'elle n'est fondée sur rien, puisqu'on n'a absolument pas eu c'est plus une peur de l'inconnu qu'une peur de la piqûre en tant que telle, vous voyez. Donc on y va, on se retrouve donc en caleçon, on s'allonge, et là il arrive, donc on est plutôt allongé sur une table de massage à peu près. En fonction de l'endroit où ça se trouve, il peut y avoir différentes pièces dans lesquelles il y a un patient par pièce. Comme ça permet pour le
passer de
plusieurs personnes à la fois,
de
façon différente, parce que là, une séance dure à peu près une heure. Donc il y a un quart d'heure de discussion, ensuite il y a à peu près 5-10 minutes de placement d'aiguille, et après pendant une demi-heure on laisse reposer, c'est-à-dire qu'on reste comme ça couché sur son matelas
avec
des aiguilles qui dépassent du poignet, du bras, du coude, de
du
la
front,
main,
des pieds, enfin
voilà, on n'en a pas partout. Forcément, moi par exemple j'avais une dizaine d'aiguilles, pas plus.
Ouais.
J'en avais 4 qui étaient à la hauteur des pieds, 4 qui étaient à la hauteur des avant-bras.
Ouais.
Et j'en avais 2 qui étaient du côté des mollets. À chaque fois je raisonne en paires, puisque les aiguilles étaient placées de façon symétrique.
Oui.
Il y en avait 2 à un endroit de la cheville d'un certain côté, et au même endroit de l'autre côté, sur l'autre jambe.
Mm-hmm.
Également à côté de la cheville. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve. Donc j'avais juste 5 aiguilles de chaque côté, quoi, hein, qui étaient posées. Et puis, donc, on reste comme ça. Et là, on peut compter les étoiles. On peut attendre un petit peu. On peut repenser à sa journée. On peut faire pas mal de trucs. Donc moi, même si c'est assez difficile de dompter sa pensée, l'idée, ce que j'ai cherché, c'était à écouter mes sensations, puisque ce qui était particulier lors de ma séance, c'est qu'il y avait des endroits où ça piquait sérieusement, et d'autres, alors qu'il piquait exactement au même endroit, mais du côté opposé,
oui,
où c'est comme s'il ne s'était rien passé, c'est-à-dire que ça faisait encore moins mal que si quelqu'un m'avait pincé le dessus de la peau.
Et encore, oui.
Vraiment, aucune sensation.
Mm-hmm.
Et c'est donc, est-ce que la douleur allait continuer, est-ce qu'elle n'allait pas continuer, est-ce qu'elle allait se propager, enfin voilà. Donc c'était intéressant d'écouter ça attentivement. Et puis donc il y a des choses intéressantes qui sont passées. J'avais par exemple une aiguille sur l'avant-bras, d'un certain côté, et en l'occurrence là, plus ça allait, plus j'avais le bras qui avait des fourmis, alors que il était posé sur mon torse, quoi.
Oui.
Il y avait aucune raison qu'il y ait des fourmillements comme ça qui apparaissent au niveau de l'avant-bras, et pourtant c'était le cas.
Mm-hmm.
Donc comme ça, il y a eu 2-3 manifestations assez marrantes, en tout cas dont on se rappelle avec le sourire, qui sont produites pendant la séance. Mais encore une fois, c'était lié à un état, à un instant T. Bizarrement, la veille ou l'avant-veille, j'avais fait une insomnie, donc vraiment, ça me travaillait cette affaire d'aller me faire piquer, je pense. Et puis voilà. Et puis à la fin, donc pendant ces 30 minutes de repos, l'acupuncteur, eh bien, il peut aller traiter d'autres personnes.
Ah oui.
Et alors, il revient 2 ou 3 fois dans l'intervalle pour vérifier si tout va bien. Et puis au bout d'une heure, il arrive et on enlève les aiguilles qui ont donc contribué à rééquilibrer les flux d'énergie dans le corps.
Voilà.
Parce que l'idée, c'est ça, c'est qu'on a donc de l'énergie dans l'organisme, cette énergie, elle circule, c'est le qi, ou c'est le qi du corps, en tout cas. Le qi, c'est la prononciation à la chinoise, hein, du mot qi.
D'accord.
Et donc, tout notre qi petits nos petits mots du quotidien, que ça soit des maux de tête, que ça soit autre chose, des problèmes de digestion par exemple, tous ces petits mots du quotidien correspondent soit à de l'énergie qui se retrouve à être bloquée à certains endroits, donc on peut, par exemple on utilise le terme de congestion, soit des problèmes d'énergie qui sont insuffisantes, mais tout ça est lié, puisque s'il y a congestion à un endroit, dans le cycle comme ça de l'énergie dans l'organisme, ça veut dire que dans les étapes qui suivent, eh ben, il n'y a plus assez d'énergie. Oui. Donc on est en manque. Et c'est comme ça que si on ne corrige pas le déséquilibre pour le ramener vers les chemins de l'équilibre, puisque ce qui est considéré comme l'équilibre, c'est un flux discontinu sans problème. Et
un
sans...
mouvement, tout le temps en mouvement, c'est ça.
Voilà, tout le temps en mouvement, ouais. Une circulation fluide. Donc dès qu'il y a une petite, un petit goulot d'étranglement à un endroit, ou quelque chose qui répond pas très très bien, bon ben hop, ce sont des indices de déséquilibre qui vont s'aggraver si on n'y fait rien.
Alors, il ne pique pas n'importe où, cet acupuncteur, bien entendu, il pique sur des points précis.
Oh oui. Dans la littérature chinoise, celle qui cadre la connaissance de l'acupuncture, il y a à peu près 800 points, il y en a 762 à peu près. Il y en a entre 700 et 1100 points qui sont référencés sur le corps, puisque l'OMS, si vous voulez, reconnaît officiellement l'acupuncture.
L'Organisation mondiale de la santé. Hein,
exactement. Ouais. Ouais. Donc, il y a eu un gros congrès qui s'est passé, qui a fixé quels étaient les points officiels. Et c'est lors de ce congrès-là qui s'est déroulé à la fin des années 80 que on a donc dit, voilà, l'acupuncture, c'est 800 points. Mais il y a plus de points que cela. En fonction des textes et en fonction des chercheurs d'il y a 3000 ans, des vieux maîtres chinois qui ont consigné leurs observations dans différents traités de médecine, etc., etc. Donc on a, il y a plus que 800 points, hein, qui peuvent être pratiqués ou qui peuvent être enseignés. Mais la nomenclature officielle on a, qui a été fixée il y a 25 ans, donc on a retenu 800. Donc ces points-là, ils sont positionnés sur ce qu'on appelle des méridiens, c'est-à-dire des lignes d'énergie.
Oui.
Et donc
et qui sont symétriques de part et d'autre du corps.
Exactement.
Si on trace une ligne médiane divisant le corps en deux, eh bien il y a une parfaite symétrie de ces méridiens sur la droite comme sur la gauche.
Exactement. C'est-à-dire faut vraiment c'est comme si on plaquait une grille sur le corps humain où il y a comme une grille mettons de mécano là où il y a plein de petits trous qui sont positionnés les uns par rapport aux autres, les uns au-dessus des autres. Donc hop, le corps humain, il est comme ça ponctué de points, ce qui correspond même en fait à des puits puisque le terme chinois veut dire il correspond à une cavité en fait, hein, ça signifie cavité le mot chinois qui désigne les points en question.
Le mot japonais est très joli aussi.
Oui.
Je me suis souvenu, je l'ai plus sous les yeux là, mais bon, c'est pas grave, je le retrouverai pour tout à l'heure.
Ouais, c'est ça. Donc comme ça, il y a des points qui sont disséminés sur le corps et qui sont répartis à plus ou moins égale distance les uns des autres.
Oui.
Et les méridiens également relient les points entre eux comme des vraiment comme un réseau, hein, comme un réseau comme ça de lignes qui structurent le corps. Et les points sont des portes d'entrée dans ce réseau.
Tout à fait, voilà. Et alors donc, les Japonais, pour eux, ça signifie vase à l'ouverture resserrée dans lequel est renfermé quelque chose de précieux. C'est très joli ça aussi.
Oui, c'est ça, bah oui, c'est très imagé, mais bon, c'est difficile à placer dans la conversation.
Oui, c'est assez compliqué, ça peut être joué, d'accord. C'est tout à fait vrai. Puis, c'est plus concis, plus imagé, effectivement. Et alors donc, il y a ces points, donc, qui relient les méridiens les uns aux autres, comme un circuit électrique, comme ça, qui parcourt tout notre corps dans sa totalité, symétrique à droite et à gauche. Mais qu'est-ce qui fait que, en plantant une aiguille à tel endroit, sur ce puits ou sur ce vase resserré, qui renferme quelque chose de précieux, ça fasse quelque chose? Parce que ça, les scientifiques, évidemment, s'interrogent là-dessus.
Pour la tradition chinoise ou asiatique en général, hein, le shiatsu qui est une méthode japonaise qui s'est constituée dans les années 40, 1940 à peu près, reprend tout le bagage de la culture de la médecine traditionnelle chinoise.
Ouais,
c'est celle qui définit les canons de cette énergie qui circule et qui est présente dans notre corps. Donc Du point de vue de la tradition chinoise, ben c'est pas compliqué. C'est du qi, hein, c'est de l'énergie. C'est le qi, c'est l'énergie qui est donc. C'est comme s'il y avait un bouchon d'énergie à un endroit donné. Et le fait d'agir avec l'aiguille, hein, je dis bien agir parce qu'on pique avec l'aiguille, mais on peut une fois qu'elle est piquée, on peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, très légèrement bien sûr. Hein.
Ouais,
on peut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On peut tapoter dessus légèrement. On peut bouger de droite à gauche, de haut en bas. Il y a plein de. On peut légèrement la soulever pour la relâcher. Ce qui fait que pour faire, mettons, un effet de valve, vous voyez, en quelque sorte.
Donc il y
a des quantités de techniques qui mettent évidemment plusieurs années à être parfaitement maîtrisées. Il y a des quantités de techniques de manipulation de l'aiguille qui sont à la disposition de l'acupuncteur. Pour susciter l'effet voulu.
Oui, réactiver la circulation fluide. Oui.
Voilà, soit pour stimuler, soit au contraire pour apaiser.
Oui.
Voilà.
Et alors donc, les scientifiques occidentaux ne se contentent pas de ce genre d'explication, évidemment.
Voilà.
Oui, sinon ce serait trop simple, je serais tenté de dire. Donc,
C'est surtout que c'est invérifiable.
Complètement. Alors, quelles sont les pistes de les recherches sur lesquelles vous êtes penché également?
Alors, les histoires de méridiens, pendant assez longtemps, de la même façon qu'on a un système nerveux avec donc des fibres nerveuses, ou qu'on a un système de circulation sanguine avec des veines et puis des ramifications comme ça qui diffusent le sang dans l'organisme. Donc on a cherché à voir les méridiens. Mais les méridiens n'existent pas en fait en tant que tels. Il y a eu donc des dissections d'organismes, il y a eu des micro-dissections, donc on essayait avec un zoom de voir un peu dans le détail s'il n'y avait pas quand même des mini-canaux qui existaient dans l'organisme et qui expliquaient cette circulation d'énergie dans le corps. Et non, matériellement parlant, les méridiens n'existent pas. On est plutôt dans l'ordre d'une situation un peu d'énergie sans fil qui circule comme ça
à l'intérieur de
l'organisme.
Ouais.
Alors, ça peut être en surface, ça peut être en dessous, puisque les canaux d'énergie, ces conduits préférentiels où va circuler l'énergie, ne sont pas identifiables en tant que tels. Donc il y a eu des travaux. Pour moi, ce qui marque le début de la recherche scientifique du point de vue occidental sur les méridiens d'acupuncture, ça se passe dans les années 50, plutôt à la fin des années 50, avec un médecin marseillais qui s'appelle Niboyer. Qui est médecin, c'est même un notable, hein, c'est une personnalité importante de la bourgeoisie marseillaise, qui est également acupuncteur. Il s'est penché sur les textes anciens, il pratique l'acupuncture de façon émérite, hein, il fait partie comme ça des pionniers dans la médecine française qui utilise l'acupuncture, et il trouve rien de mieux à faire que de faire sa thèse de docteur et sciences de médecine là-dessus.
Ouais.
C'est-à-dire que après avoir pratiqué la médecine, il cadre sa recherche sous forme de thèse. Et donc c'est dans les années 50, là entre 55 et 57, qu'il met au point des appareils qui mesurent la conductivité électrique de la peau.
Voilà, et là ça commence à devenir intéressant.
Voilà, exactement. Donc et un des appareils qu'il met au point, c'est par exemple l'équivalent un peu, c'est une sorte de brosse avec des picots, avec des pointes métalliques, mais les pointes sont très très proches les unes des autres. Ça ressemble un peu à une brosse avec laquelle on peut brosser un chat, si vous voulez, vous voyez,
le
brosse comme ça avec des pointes longues. Donc on plaque la brosse comme ça sur la surface de la peau, et ça permet de mesurer les valeurs de la conductivité électrique de la peau, donc de la résistance si on veut, sur une zone donnée, et donc de repérer pour une zone donnée s'il y a des points qui ont des valeurs extrêmement différentes de leur environnement. C'est-à-dire que ça permet de mesurer une zone de la peau et d'inclure dans cette zone un point ou plusieurs points d'acupuncture.
Tout à fait. Et là,
et donc
bingo.
De cartographier comme ça l'ensemble de la surface de la peau d'un point de vue conductivité électrique ou valeur électrique.
Ouais.
Et là, il s'aperçoit que par rapport au millimètre près, c'est-à-dire au millimètre à côté, ça ne fonctionne pas, au millimètre près, les points d'acupuncture présentent des anomalies de conductivité électrique ou de résistance électrique. C'est-à-dire que les valeurs du point d'acupuncture sont entre 50 et 70% différentes du millimètre de peau qui se trouve à côté. fait.
Voilà, de leur environnement tout autour, quoi.
De leur environnement immédiat.
Et là, c'est quand même très significatif.
Ouais, exactement. Donc, il y a déjà, il y a une, c'est une première objectivation, c'est une première mise en évidence d'un phénomène scientifique, d'un phénomène observable et vérifiable à volonté.
Ouais, oui.
Qui a été qui n'a donc c'est des travaux qui datent de la fin des années 50 et qui n'ont jamais été remis en cause depuis, puisqu'il a été le premier à cartographier comme ça de façon sérieuse et systématique les caractéristiques électriques des points d'acupuncture. Donc il est parti effectivement dans cette piste électrique ou cette piste électromagnétique, puisque depuis Galvani, depuis le réflexe nerveux, l'influx nerveux de la patte de la grenouille, l'électricité est associée au vivant. Donc, on sait que le corps humain a une activité électrique. Et d'ailleurs, c'est l'électrocardiogramme, l'électrophysiologie, c'est-à-dire l'étude des phénomènes électriques qui participent de l'organisme humain ou d'un organisme vivant, sont étudiés depuis les années 1860, 1870 à peu près. C'est quelque chose qui est très très ancien, qui est plus ancien même que des recherches qui étudient d'autres sujets.
Oui, tout à fait. Et donc, il y a d'autres chercheurs qui continuent à explorer cette piste, et on va même jusqu'à découvrir d'autres points d'acupuncture que ceux qui ont été recensés, qui sont recensés par la médecine traditionnelle chinoise.
Oui, effectivement. C'est-à-dire que du coup, là, ce qu'a fait Niboye, c'est il superpose la cartographie des points tels que la pratiquent les acupuncteurs chinois.
Voilà.
À ses relevés électriques.
Voilà ce qu'il a découvert lui par son procédé. Ouais.
Et ça se superpose. Il y a quelque chose qui est corroboré. Intéressant.
Ouais.
Mais du coup, on peut utiliser le système à l'envers, c'est-à-dire qu'on va mesurer la peau et noter tous les points qui peuvent avoir une anomalie électrique.
Oui.
Et du coup, on se retrouve, par exemple, à mettre en évidence des points qui ne sont pas référencés par les Chinois.
Mm-hmm.
Voilà, c'est ce qu'a fait Vol, qui est un médecin allemand, un peu plus tard, bien sûr, vers les années 70 à peu près, les années 1970.
Oui.
Donc lui, évidemment, il pratiquait l'acupuncture, il connaissait ça. Et puis il voyait des personnes qui venaient le voir avec des différentes pathologies, ils souffraient d'allergies par exemple, ils avaient du stress, il y avait en tout cas des pathologies très très particulières qui n'étaient pas historiquement documentées par les textes chinois. C'était des maladies de civilisation en quelque sorte auxquelles lui il était confronté en Allemagne.
Mm-hmm.
Et alors à force d'avoir des patients et aussi sûrement par une forme de curiosité et d'intuition comme ça, il a commencé à mesurer des points en dehors des lignes habituelles conseillées par les Chinois.
Mmh.
Et là, il a commencé à voir que, comme il faisait ses relevés systématiquement lui aussi, à force de cas et de documentation sur ces cas, il s'est rendu compte que tel profil de personnes qui venaient le voir pour tel famille de problèmes, eh bien, ils avaient plutôt des valeurs électriques qui étaient anormales sur tel point ou tel point. Quand bien même, ces points-là n'étaient pas référencés ou catalogués par les Chinois.
Oui.
Et donc, il a créé comme ça ses propres méridiens à lui.
Mm-hmm.
Et qui complètent la
cartographie.
La acupuncture officielle.
Oui, tout à fait. Oui, oui.
Bon, mais de la même façon, hein, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même une démarche proche, moi j'estime, tout ce qui est acupuncture de l'oreille, l'auriculothérapie.
Oui.
Mmh. De Nogier, qui était sur Lyon. Faut bien avoir en tête que l'école française de l'auriculothérapie est, entre guillemets, la meilleure du monde. C'est-à-dire que ce sont les Chinois viennent se former en France à cette technique-là, c'est-à-dire à une acupuncture qui est spécifiquement ciblé comme un zoom sur les points de l'oreille.
C'est extraordinaire, c'est ce que vous nous dites là.
Oui, non, mais bon, c'est c'est comme ça, quoi. C'est... C'est-à-dire que le travail spécifique qui a été fait à la hauteur de l'oreille par ce Français, Nogier, va plus loin que la connaissance qui avait été faite, la connaissance, on pourrait dire généraliste, de l'acupuncture chinoise.
Ouais.
Et donc, il a identifié plus de points que ce que la tradition chinoise avait répertorié.
Extraordinaire.
Ce qui fait que, pour être au top, si on veut faire de l'acupuncture sur l'oreille, bah, faut venir suivre des cours en France. Ok? C'est simple.
Vous avez noté? Bon.
Mais non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pour ça qu'on se retrouve avec une, depuis une trentaine d'années en tout cas, avec une, un corpus occidental sur l'acupuncture qui vient compléter la tradition chinoise.
Ouais, ouais. Alors, on va malheureusement clore le dossier de l'acupuncture. Il y a encore beaucoup à dire. J'invite ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin à se reporter à votre livre, parce que il y a également dans cette conduction du qi ou du chi une hypothèse qui est intéressante, qui est l'eau. Ça pourrait être aussi. C'est une piste que vous avez explorée également. Là, on va faire une pause et on va passer à une étape suivante. On va parler du Qigong. Ce que c'est, moi j'avoue que avant de lire votre livre, j'en avais qu'une vision très très parcellaire, vraiment. Et vous allez nous faire découvrir en quoi cela consiste et comment c'est issu également de cette même philosophie qu'ont développé les Chinois à travers le Qi, évidemment. Juste pour moi, le temps de vous dire que il y a plusieurs SMS qui viennent d'arriver au 71-200, que si vous voulez continuer, vous qui nous écoutez, à envoyer des questions et à nous faire passer des commentaires, vous pouvez le faire. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre question et vous l'envoyez au 71-200. Je vais les poser dans quelques instants à mon invité Maxence Laillé, où vous pouvez également nous faire part de votre expérience si vous pratiquez le Qigong, par exemple, puisqu'on va en parler dans quelques instants. Vous pouvez nous appeler au 0826-300-300 pour intervenir dans cette émission. 0826-300-300.
Samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
Avec mon invité Maxence Laillé, qui est journaliste scientifique et qui vient de publier un bouquin extrêmement intéressant, un livre qui a pour titre « L'énergie secrète de l'univers ». Et il y a des auditeurs qui viennent d'appeler au standard pour me demander de rappeler le nom de l'éditeur. Excusez-moi, j'avais oublié de le dire tout à l'heure. Effectivement, c'est aux éditions Guy Trédaniel. Voilà, aux éditions Guy Trédaniel, le titre du livre « L'énergie secrète de l'univers ». Maxence Laillé, un SMS est arrivé au 71-200 et qui pose la question suivante. Ça va être une excellente introduction au chapitre que l'on va découvrir avec vous, le qui et la pensée. Ce SMS dit « Peut-on, comme dans le cas de la télékinésie, contrôler l'énergie, le qui, par la pensée ?»
Oui.
Voilà une question qu'elle est bonne. Effectivement.
Oui, la réponse, elle est simple, c'est oui. C'est en tout cas ce que transmettent et enseignent les maîtres en Qigong.
Mmh. Et ben voilà, justement, il y a un autre SMS qui vient d'arriver. La pensée peut-elle agir sur l'énergie? Votre réponse est incontestablement oui.
Oui. C'est-à-dire, en fait, je vais essayer d'aborder la question des relations entre la pensée et l'énergie juste en faisant très vite, hein, pendant 5 minutes, enfin en étant synthétique. Donc
allez-y.
il y a trois notions. Il y a la pensée, c'est comme on l'utilise au quotidien, au jour le jour, donc voilà, la pensée, ok, on est en train de penser sur des choses, d'accord. Notion qui nous est familière.
Ouais.
Après, il y a l'intention. L'intention, c'est une forme de concentration de la pensée dans une direction donnée.
Mm-hmm.
Donc l'intention, elle est centrale, et ce n'est pas la pensée, c'est l'intention qui peut contrôler l'énergie, ou en tout cas qui va orienter le sens de l'énergie.
Oui.
C'est tout le sens et tout le vécu, toute la pratique, tous les exercices que vont faire les maîtres en Qigong, enfin que font eux-mêmes, et que font faire les maîtres en Qigong à leurs élèves. Donc la notion d'intention, que je distingue de la pensée, elle est fondamentale par rapport à cette histoire, est-ce que la pensée peut influencer l'énergie? En tout cas, l'énergie personnelle, bien sûr.
Oui, oui, oui.
Et là encore, on n'est pas forcément très éloigné des histoires de psychosomatiques ou de malades imaginaires, etc. etc. Hein.
Ouais.
Donc, il y a l'intention. Et donc, il y a un troisième aspect, c'est les émotions. Ce sont les émotions. C'est-à-dire, c'est des bouffées de pensée, des choses qu'on va ressentir à l'intérieur de soi et qui vont provoquer des états physiologiques. Et c'est un point très important. Notamment essentiellement en médecine chinoise, puisque juste pour clore peut-être ce qu'on pouvait évoquer précédemment sur la santé et l'acupuncture, pour la médecine traditionnelle chinoise, 80% de nos maladies, de nos symptômes, sont d'origine mentale, liées à une mauvaise gestion de nos émotions. Oui. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut se faire piquer par un insecte venimeux, évidemment, on peut se prendre un éboulis sur la figure ou un arbre, et donc ça, c'est un accident, donc on n'est pas bien. Évidemment, on peut avoir comme ça des phénomènes extérieurs, puisque tout ça, que ça soit même un venin ou un accident de voiture, ce sont des énergies extérieures avec lesquelles il y a une collision, avec lesquelles on rentre qu'on vient percuter. Et donc là, en l'occurrence, dans le cas d'un accident de voiture, c'est une énergie cinétique qui endommage l'organisme. Là, j'utilise des termes de la science occidentale, le venin d'un serpent, c'est une forme d'énergie. C'est une énergie chimique, c'est ce qu'on veut, mais c'est une forme d'énergie du point de vue des Chinois par rapport au Qi, tout ça. Donc, il y a des énergies extérieures, mais ces énergies-là, elles représentent ces causes extérieures, ces facteurs extérieurs, ça représente 20% des causes des maladies. 80% des autres formes de maladies sont d'ordre mental, personnel, liées à une mauvaise gestion de nos propres émotions. D'où l'importance de faire des exercices mentaux, pourrait-on dire, de méditation, pour être dans un état zen, pour être dans un état de bien-être intérieur. Et le Qigong correspond à cette classe d'exercice, à cette classe de discipline personnelle, qui permet comme ça, en domptant sa pensée, en orientant ou en faisant des exercices qui vont comme ça apaiser la pensée, du coup, on est en meilleure santé. Voilà.
Oui, c'est ça. Le Qigong, ça n'est pas uniquement cette sorte de gymnastique que l'on peut pratiquer.
Oui, c'est vrai.
Ça va bien au-delà, évidemment.
À la louche, comme ça, abusivement, on peut se dire, le Qigong, c'est une forme de yoga chinois. Oui, on peut le dire comme ça, et c'est pas faux non plus, puisque dans le yoga, il y a aussi l'énergie universelle qui s'appelle le prana, qu'on respire, etc., etc. Mais ce qui est intéressant dans le Qigong, c'est que, il y a le côté, on fait des mouvements au ralenti, mais là, quelle est la différence entre le Qigong et le Tai Chi, dans ce cas-là, il n'y en avait pas beaucoup. Ce qu'il y a en plus, c'est qu'il y a effectivement des respirations, il y a aussi en plus des visualisations, c'est-à-dire qu'on va visualiser le fait d'avoir une douche dorée qui vient nous pénétrer, une douche dorée un peu comme des paillettes d'or, si vous voulez, qui viennent comme ça pleuvoir sur nous, tomber en neige comme ça sur nous. On peut visualiser ça, on peut visualiser bien entendu une sphère qui est également de couleur jaune, parce que c'est souvent la bonne énergie, quoi, qu'on va tenir entre nos bras devant nous. On peut visualiser comme ça plein de choses, se fabriquer des sensations mentales qui participent d'une certaine activité de l'organisme qui correspond à un état Qigong. C'est-à-dire que l'état Qigong, parce que les maîtres en Qigong, ça les énerve quand on dit, c'est une gymnastique énergétique. C'est d'abord un état d'esprit avant d'être une gymnastique.
Oui, tout à fait.
D'ailleurs, c'est cet état d'esprit-là, on y accède par le biais de l'exercice. Ou des exercices, parce que il y a là aussi pléthore de Qigong, il y a des boutades comme ça qui circulent, comme quoi il y a plus de Qigong que de jours dans l'année, puisque un Qigong, c'est un enchaînement d'exercices, ou c'est une posture, ou c'est comme ça 3-4 choses qui composent l'exercice en lui-même. Je vais utiliser le terme d'exercice plutôt que Qigong en l'occurrence.
Hein. Oui.
Donc on peut faire des exercices en étant debout, on peut faire des exercices en étant couché, on peut faire des exercices en marchant, on peut faire des exercices en étant immobile dans son jardin avec le lever du soleil, on peut faire des exercices quand on est dans un embouteillage, etc. Donc il y a vraiment des quantités de situations et des Qigong adaptés à chaque situation. Voilà.
Et alors,
il y a des Qigong pour les femmes enceintes, il y a des Qigong pour les enfants, il y a des Qigong pour les personnes âgées, où là, en l'occurrence, aurait les dernières études depuis 5-6 ans, des études dont les résultats émergent, commencent à être publiés, attesteraient d'un effet préventif par rapport aux maladies de dégénérescence, aux maladies de la vieillesse, qu'elles soient cardiovasculaires ou neurologiques. Voilà.
Ce qui est intéressant finalement, mais
ça semble pas inutile, effectivement.
Oui, complètement. Mais dites-moi, il y a dans votre livre, le professeur de Qigong, un des maîtres de Qigong que vous avez rencontré, qui dit notamment, en se concentrant, on peut allumer une petite ampoule en la touchant du doigt.
Oui, mais là, il y a quand même... C'est pas évident de rencontrer quand même des personnes qui sont capables de faire ça, hein,
non,
bien sûr.
Non, j'imagine, non.
Non, mais alors, donc là, c'est pareil, tout cela est très structuré, est très organisé, est très systématisé, donc il y a les Qigong internes qui concernent votre état intérieur, que ça soit
votre circulation sanguine, la bonne circulation,
les Qigong externes. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu donc de travailler son énergie personnelle à l'intérieur, on va projeter son énergie vers l'extérieur.
Oui.
Voilà. Et donc, un expert en Qigong qui est capable... il fait pas que la tapoter, hein, il frotte un peu dessus.
Oui.
Il y a un peu de manipulation quand même qui correspond à une forme de qui est en termes de rituel, par exemple, c'est assez spectaculaire et c'est assez proche des exercices de préparation des experts en arts martiaux.
Ouais.
Qui font des choses impossibles.
Ouais.
Bon, mais c'est parce que ce soit par la respiration ou par d'autres types de techniques, il y a effectivement un travail sur l'énergie intérieure qui en quelque sorte, c'est des résumés un peu à la louche, hein, que je vous fais. Et cette énergie, comme ça, elle va imbiber, elle est extrêmement dense dans l'intégralité de son organisme, donc ce qui fait qu'il est capable de faire des exploits surhumains.
Ouais,
voilà, on schématise comme ça.
Oui,
bon,
tout à fait.
Donc, l'exemple que vous preniez du maître Qigong qui est en mesure d'allumer un néon, bon ben c'est pareil, pendant 5 minutes il va faire des exercices pas possibles, qui sont à la limite d'être épuisants, et puis quand il a le niveau d'énergie suffisant, que l'on peut d'ailleurs mesurer si on mesure le champ d'énergie qui entoure son organisme, ça on pourra peut-être en parler un peu après.
Ah bah évidemment oui.
Hein, je pense. Donc quand il a le niveau d'énergie suffisant, donc que ça soit par exemple une énergie électrostatique par exemple, bon ben là il approche sa main du néon, et ben, le gaz qui est à l'intérieur du néon, il réagit par rapport au champ d'énergie extérieur.
Oui, oui.
C'est assez logique.
Ah oui, 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 mais encore faut-il réussir à le faire et à le produire, évidemment.
C'est ça. Il y a quelques décennies d'exercice. Hein.
J'imagine. Le tai chi, qu'est-ce que c'est ?
Le tai chi, c'est une. Là, c'est vraiment une forme de gymnastique.
Oui.
C'est-à-dire, la différence entre le tai chi, on est sur des mouvements lents qui vise à développer la souplesse. On est sur le musculo-squelettique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est dans des exercices qui visent la souplesse et le délié du corps, et donc on travaille les tendons, on travaille les muscles, mais on est dans des mouvements lents, on est dans une forme de culture physique douce.
Ouais.
Alors que le Qigong, on est sur un travail énergétique. On est sur des exercices qui passe par le corps et qui passe par la pensée via des visualisations particulières, qui passe par le corps via des gestes, via des postures, mais aussi via des respirations particulières, et qui, l'un dans l'autre, en étant combiné, en étant simultané, favorise un état intérieur qui, du coup, peut se mesurer à l'extérieur si, par exemple, on mesure l'énergie électromagnétique qui est rayonnée par un maître en Qigong, ou qui va avoir un effet sur l'environnement extérieur, par rapport à des expériences qui ont été faites dans les années 80, hein, en Chine, où on mettait dans la main d'un maître en Qigong des bouillons de culture avec des bactéries à l'intérieur, et on lui demandait de se concentrer pour en tuer un maximum, ou au contraire pour envoyer une énergie qui allait être propre à la vie, c'est-à-dire soit on balançait un ki tueur, soit on balançait un ki
régénérateur
ou fertilisant, quoi. Et donc les tests ont été refaits avec une cinquantaine d'éprouvettes différentes, etc. Donc vraiment, bien entendu, le maître en Qigong, lui, il sait pas ce qu'il a dans les mains, il fait ce qu'on lui dit. Ça dure 2 minutes, et puis après...
On analyse pour voir ce que ça donne.
Voilà, ils ont fait des analyses, et il y a aussi des rapports de 1 à 10, quant à la norme, c'était 5 bactéries, et puis dans le cas d'un ki tueur, il n'en restait plus qu'une seule, et par contre, quand c'était un ki propice à la vie, là, il y avait il y avait 10 bactéries à l'intérieur, ça proliférait.
Je vous ai posé cette question concernant le tai chi, puisque nous avons Chantal qui vient de nous rejoindre, une auditrice. Chantal, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez d'où ?
Je vous appelle de Montpellier.
Ah, très bien, très bien.
Et je suis vraiment ravie d'entendre une émission justement aussi éclectique.
Mais écoutez, c'est très gentil. Alors, vous pratiquez le tai chi depuis de nombreuses années, hein ?
J'ai l'âge de 16 ans et j'en ai 53.
Ah, vous
donc,
avez été une des pionnières.
Non, je crois pas. Il y a 4000 ans derrière nous. Hein.
Oui, non, c'est vrai, mais je parlais en France, évidemment.
Non, je crois pas non plus.
Alors, dites-nous. C'était,
disons que moi, j'ai commencé vraiment par hasard parce que j'avais une maladie assez importante. Mm-hmm. Et mes parents, en dépit du bon sens, m'avaient un petit peu trimballé parmi toutes les spécialistes du coin et avaient entendu parler de quelqu'un qui était un homéopathe et qui pratiquait l'homéopathie, l'acupuncture,
oui.
Mais ne savait pas du tout ce que c'était. Ils avaient cette chance d'avoir une ouverture d'esprit extrêmement grande. Donc, ils m'ont confié entre les mains de ce monsieur, qui n'exerce plus maintenant, hélas. Et il m'a réveillée vraiment à la vie par, justement, la pratique de l'acupuncture. Il m'a vraiment sortie de ce marasme dans lequel j'étais. Il m'a fallu quand même plusieurs années, il faut quand même en convenir.
Oui.
Mais j'ai continué à être suivie par lui. Puis, il m'a appris, il m'a initiée donc au Qigong, il m'a initiée au Tai Chi. Je suis devenue également taoïste, en plus de tout cela, parce que la pratique me plaisait beaucoup. Et quand j'ai eu l'immense bonheur d'être enceinte, d'être une future maman, eh bien, il a soigné ma fille à l'intérieur de mon ventre avec l'acupuncture. Il lui a permis, justement, d'évoluer. J'avais un accouchement qui se présentait très, très mal. Et il m'a anesthésiée par acupuncture. Il a fallu faire des dérogations, parce qu'à l'époque, c'était interdit par la loi en France.
Mm-hmm.
Il fallait, on signait chaque fois des dérogations. Mais il est venu un petit peu en douce dans la clinique et c'est comme ça que j'ai pu accoucher quasiment normalement sans avoir d'effets secondaires.
Ouais.
Et je continue, moi, il m'a appris des points qui sont les miens à vie, parce qu'il y a ça aussi dans l'acupuncture, c'est qu'on a des points à soi pour des pathologies qui vont courir tout autour de notre vie. Et je les manipule de temps en temps avec les doigts, je fais de la digitopuncture, bon, c'est quelque chose d'extrêmement léger,
ouais,
et
ouais,
ça me
ouais.
permet de me soulager en attendant que les médicaments fassent effet.
Ouais, ouais.
Et comme j'ai des traitements très lourds, votre interlocuteur, dont j'ai complètement oublié le nom.
Maxence Laillé.
Voilà, Maxence Laillé, mes excuses. Connais ça. Je manipule également par la pensée, par la concentration du Qigong et au Tai Chi. Je peux également amplifier les médicaments que je prends avec ce qu'on appelle la main intérieure, parce que je peux brasser mon estomac, je peux brasser tout ça par la pensée et la concentration.
Ouais.
Et tous les matins, inexorablement, je fais mon Tai Chi dans mon jardin, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il fasse vent.
Ouais.
Et même quand je suis hospitalisée, je le fais effectivement allongé. Et les médecins qui me soignent le savent, ils me permettent de me concentrer avant de faire une manipulation.
Mm-hmm.
Et à ce moment-là, j'arrive totalement décontractée et apte à supporter ce que je vais recevoir.
Ouais.
Et ça fonctionne. Et je peux vous assurer que quand je prends un médicament, si je n'ai pas fait de Tai Chi ou de Qigong parce que j'étais trop fatiguée,
ouais.
ils n'agissent pas plus vite. Tandis que quand je suis assez décontractée et que j'arrive à faire mon Qigong et mon Tai Chi, les médicaments agissent au bout de 10 minutes.
Mmh.
Et ça, ils ont pu vraiment, sans vraiment le voir, parce qu'ils étaient très intrigués par ça.
Oui. Alors, là, je me tourne, si vous permettez, Chantal, quelques instants, vers mon invité Maxence Laillé. Maxence, je vais me faire l'avocat du diable. Un médecin généraliste, docteur en médecine, qui entend le témoignage de Chantal, va crier tout de suite au psychosomatique, évidemment. Ben oui, ouais, c'est vrai.
Oui, mais
c'est pour ça que je me fais l'avocat du diable, c'est pour
oui,
ça.
Oui, non, mais c'est probable. Mmh. Mais est-ce que c'est important? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte dans l'affaire, c'est ce qui marche.
Exact.
Ce qui compte dans l'affaire, c'est qu'on soit mieux ou qu'il y ait un résultat satisfaisant.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que c'est ça, effectivement, c'est une forme de différence, on pourrait dire philosophique, un peu radicale entre l'approche chinoise ou l'approche occidentale. C'est que, comme vous l'avez dit, c'est le qi, la philosophie taoïste, c'est lié à l'observation de l'environnement. Donc on est sur une approche de phénomène. On est sur une approche empirique. Donc, quelque part, on se moque un petit peu de savoir pourquoi ça marche, si ça marche.
Mm-hmm.
Ok.
Oui, oui.
Et d'autant plus, après, si on prend l'hypothèse que ça marche à cause de ça et qu'on répète l'exercice et qu'on se trouve à avoir le résultat qui est corroboré au fil des expériences et au fil des essais,
mm-hmm.
Bon, ben voilà, après, on peut continuer à s'interroger ou à rester perplexe, ou on peut partir dans cette direction-là. Mais de toute façon, le psychosomatique, il faut bien se dire que la science occidentale n'a absolument aucune idée, n'a aucune piste d'explication de cet effet.
Oui, on ne sait pas comment ça marche, en tout cas.
On n'en a absolument aucune idée.
Oui.
Et quelque part, le psychosomatique, c'est quand même une magnifique démonstration du pouvoir de la pensée sur le corps.
Bon argument, votre honneur.
Non, mais c'est logique.
Non, c'est vrai. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et alors, pour aller dans le sens de ce que nous a dit Chantal, on vient de recevoir un SMS. Je vous invite d'ailleurs à nous envoyer ou à nous appeler au 0826-300-300 pour venir nourrir ce débat. Ce SMS, Maxence Layet dit « Je pratique le Qigong depuis 3 ans et c'est un vrai bonheur. Mes migraines ont disparu. Je gère mieux mon stress. Mon état général s'est amélioré. » Et comme vous l'avez dit à l'instant, bah, si ça marche, tant mieux.
Bah oui, c'est-à-dire que c'est pour quelque part, si vous voulez, c'est une culture de résultat, quoi. C'est-à-dire que si on a un résultat qui est satisfaisant grâce à cette pratique, quand bien même la science ne peut pas l'expliquer, ce qu'il y a sûr, c'est que la réalité est là. Alors après, que ça soit une réalité qui soit influencée par nos pensées, c'est une possibilité. Mais en tout cas, la réalité est là. Et de toute façon, le Qigong, c'est pas le Qigong qui fait du bien. C'est l'exercice de notre pensée, c'est la discipline imposée à notre pensée via cet exercice.
Oui.
C'est donc en fait notre pensée qui est régulée, en quelque sorte, qui est orientée grâce à l'exercice. Donc on est bien sur une influence de l'esprit sur le corps.
Oui, oui, tout à fait.
Non pas parce que c'est l'esprit en lui-même qui est le plus fort, hein, c'est pas l'idée de ce que je voulais dire, mais c'est parce que comme une grande partie de nos problèmes vont être causés par nos pensées, hein, si on reprend ce que considère la médecine traditionnelle chinoise.
80% des maladies.
Voilà, si on veut rester fidèle à ce point de vue-là.
Oui, oui.
Nos pensées font parasites en quelque sorte. Et alors que le Qigong induit un calme intérieur. Et c'est ce calme intérieur qui permet d'être en communication saine, en échange optimisé, si l'on veut, avec les énergies de l'environnement.
Mmh, tout à fait. Chantal, pour aller plus loin dans votre témoignage, vous nous avez dit que vous pratiquez le tai chi et le qigong depuis de nombreuses années et que vous êtes devenu taoïste. À votre avis, il est impossible d'entrer dans cette voie sans aller plus loin et donc de s'intéresser à la philosophie sous-jacente si on veut que ce soit vraiment efficace?
Non, pas du tout, parce que j'ai des amis qui pratiquent le tai chi. Qui ne sont pas taoïstes pour autant.
Oui.
Moi, j'ai été séduite par la philosophie taoïste qui me convenait tout à fait à ce moment-là et qui, avec le temps, s'est avérée être tout à fait en adéquation avec ma pensée.
Voilà,
c'est tout à fait privé.
Oui, voilà. Si on veut un peu schématiser sur parce que bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça, on peut schématiser sur les choses. Pour la pensée taoïste, faut se représenter la chose comme un peu c'est une approche écologiste. C'est-à-dire qu'il y a des énergies dans l'environnement. Ces énergies sont en interaction les unes avec les autres, mais par contre, ce qui va faire que les choses sont entre guillemets bonnes, que les choses vont dans le bon sens, qu'il n'y a pas de maladie, etc., c'est la préservation de l'équilibre. Donc, c'est une approche écosystème.
Ça fait moi je dis écologie interne.
Voilà, exactement, oui. Bien sûr, oui. Le taoïsme, c'est une logique de philosophie appliquée à sa vie ou à ses exercices au quotidien, on est dans de l'écologie intérieure, bien entendu, dans l'écologie mentale.
Oui.
Bien sûr.
Tout à fait. Merci Chantal en tout cas de nous avoir apporté votre témoignage.
Je vous souhaite. Très gentil à vous de m'avoir accueilli.
Écoutez, avec plaisir. Bonne soirée.
Merci, bonne main intérieure.
Je vous invite, vous qui nous écoutez, à venir nous rejoindre également si vous voulez poser des questions à mon invité Maxence Layet ou encore à venir nous apporter comme Chantal votre témoignage. Vous nous appelez au 0826-300-300, 0826-300-2 fois ou encore par le biais du SMS, vous tapez Sud sur votre portable et ensuite vous rédigez votre commentaire ou votre question et évidemment je serai votre porte-parole puisque les SMS arrivent directement sous mes yeux sur l'écran d'ordinateur que j'ai juste à côté de moi. Une pause et on se retrouve pour continuer cette conversation avec Maxence Layet.
Les aventuriers de l'étrange.
Avec ce soir, au centre des aventuriers de l'étrange, un livre que je vous recommande, paru aux éditions Guy Trédaniel. Ce livre s'intitule « L'énergie secrète de l'univers » et son auteur Maxence Layet, journaliste scientifique, est en ma compagnie. Maxence Layet, continuons sur le qui ou le chi et la pensée. Vous vous êtes penché évidemment sur toutes les expérimentations scientifiques qui s'intéressaient à ce que pouvait produire notre cerveau et nos pensées exactement.
Lesquelles plus précisément? Celles relatives à la télékinésie ou celles relatives au biofeedback, c'est-à-dire à l'influence de la pensée sur les mécanismes physiologiques du corps comme le rythme cardiaque ou la circulation sanguine, voire notre température?
Les deux, mon colonel. Commençons par la télékinésie.
Oula. C'est vrai que à partir du moment où, on s'intéresse aux histoires de Qigong externe, c'est-à-dire de Qi projeté par des maîtres Qigong,
voilà.
Et qui sont, on a cité l'exemple du néon, mais ce Qi projeté, il est avant tout utilisé dans des perspectives curatives.
Mm-hmm,
c'est-à-dire que le maître en Qigong se place à une certaine distance de son patient, et puis hop, il met les mains en position et on envoie de l'énergie, quoi. Voilà.
Ouais, ouais.
Donc c'est une forme de magnétiseur. Hein,
voilà, c'est ça. Oui, tout à fait.
On peut reprendre des critères comme ça ou des cases qu'on a l'habitude d'utiliser chez nous.
Ce qu'on connaît chez les guérisseurs
exactement.
De notre entourage.
Bien sûr,
fait.
Exactement.
Oui.
Et donc il y a la télékinésie par rapport à ça, qui est le pendant de cette action de la pensée sur la matière.
Mm-hmm.
Et qui est une des disciplines étudiées par la parapsychologie. Donc qu'est-ce que c'est la parapsychologie? Où on en est par rapport à la parapsychologie? Qu'est-ce que c'est celle-ci sur les pouvoirs de l'esprit? Donc du coup, effectivement, en parallèle à mes rencontres avec des experts chinois ou asiatiques, ou en tout cas, comme par exemple le maître en Qigong dont on parlait, qui réside en France depuis les événements de Tiananmen,
oui.
Donc je suis allé voir aussi des experts occidentaux, chacun dans leur domaine, et y compris des personnes de l'IMI, Grégory Gutiérrez et Mario Vervoglis qui dirige l'Institut Métapsychique International.
Tout à fait, oui. Mm-hmm.
Donc je suis allé les rencontrer pour discuter avec eux de qu'est-ce qu'on sait sur les énergies de la pensée. Donc on a discuté un peu de télépathie, un petit peu de télékinésie, et surtout donc évidemment de micro-télékinésie, c'est-à-dire c'est un domaine de recherche qui porte sur, là aussi, l'infiniment petit, et sur l'influence que l'esprit peut avoir sur l'infiniment petit. Donc ils utilisent pour ça des appareils électroniques qui sont censés générer des chiffres de façon complètement aléatoire.
Voilà.
Donc c'est comme si on lançait
100
000 fois une pièce en l'air, mm-hmm. et on est censé en avoir une fois sur deux côté pile, une fois sur deux côté face.
Ouais.
Et donc si on commence à avoir sur ces 100 000 fois 70 000 fois côté pile, là on a une déviation anormale par rapport au hasard,
mm-hmm.
on a une anomalie significative d'un point de vue statistique,
ouais, ouais.
et donc on est sur un phénomène paranormal ou de type micro-psychotélékinésie, puisque ce qui avait été demandé par exemple à la personne qui lançait la pièce, c'était d'essayer d'avoir le plus de piles possible,
voilà,
et donc de
ça.
Dévier le
oui.
hasard.
Oui, oui, tout à fait.
Voilà. Donc là, ils utilisent des petits appareils électroniques qui, comme ça, génèrent des chiffres en permanence. Enfin, c'est évidemment relié à la micro-informatique.
Mm-hmm.
Et donc, ça fait 40 ans, hein, 40, 45 ans à peu près, qu'il y a comme ça des expériences essentiellement américaines, parce que la parapsychologie en France, elle est un petit peu, elle a un peu de mal à être sérieusement considérée par l'establishment universitaire.
On en sait quelque chose dans cette émission. On a reçu beaucoup de personnes de l'Institut Métapsychique International et d'autres scientifiques. Et effectivement, c'est une tendance lourde.
Ouais,
au sens
voilà,
plein
ouais,
du terme.
C'est effectivement une exception culturelle française.
Oui, tout à fait.
Il y a un petit peu de mal. Alors, bon, si on veut, ce qui compte, c'est de garder l'esprit ouvert et de se dire que c'est possible, mais après il faut à chacun, scientifique inclus bien entendu, d'avoir l'exigence intellectuelle de vérifier les choses et de s'assurer que non, c'est pas possible, oui c'est possible, ou en tout cas si phénomène il y a eu, ça a été un trucage, ou si anomalie il y a eu, il n'y a pas eu de trucage par exemple.
Mais
étudions les phénomènes sérieusement plutôt que de les nier dès le départ, quoi.
Nous sommes d'accord.
Sous forme d'a priori.
Mais ce qu'il y a d'intéressant une fois de plus, c'est ce parallèle que vous faites, c'est cette passerelle que vous créez entre cette philosophie asiatique, orientale en règle générale, et occidentale, c'est que pour un Chinois, par exemple, phénomènes paranormaux, il n'y a pas, puisque dans sa conception philosophique de la vie, ça rentre dans le cadre, c'est tout à fait compréhensible.
Exactement, puisqu'en fait, comme la tradition chinoise va avoir une lecture du monde, comme quoi le monde est tissé et traversé d'énergie.
Oui, ben oui.
Donc, le fait, donc, ça implique que toutes les choses rayonnent de l'énergie, y compris le corps humain, quoi.
Mmh, mmh.
Et donc, avec cette... Et puis il y a aussi les maîtres en Qigong et puis les gens qui font des arts martiaux qui attestent au quotidien là-bas de choses un peu extraordinaires.
Oui, de leur capacité fantastique, oui, tout
donc,
à fait.
Donc, il y a effectivement une sorte de fantastique qui existe,
mmh.
mais qui n'est pas... pas impossible de ce qu'on a pu concrètement observer. Et les dernières recherches en date sur, par exemple, les moines tibétains qui font de la méditation, corroborent ça. Bon, alors, pour en revenir à nos histoires de d'influence de l'esprit sur la matière, il y a donc deux choses. Tout d'abord, les appareils électroniques qui vont être influencés, c'est-à-dire quand on fait le détail des résultats, où on place quelqu'un face à l'ordinateur et qu'on lui dit
concentrez-vous pour qu'il y ait plus de piles que de face.
Il a plein de petites lumières ou de petites ampoules qui clignotent devant lui. Essayez d'avoir plutôt les ampoules rouges qui s'allument ou essayez d'avoir plutôt les ampoules jaunes.
Donc
le gars, il s'assoit, il regarde, il regarde pas, ou il pense pas, enfin il fait ce qu'il veut. On lui demandera après, il remplit un questionnaire, savoir à quoi il a pu penser par exemple. Mais le truc, il reste un quart d'heure devant les lumières qui clignotent, et puis derrière, il y a générateur numérique aléatoire, c'est le nom de l'appareil en question, qui fabrique des chiffres au hasard. La petite bidule électronique là, il y a le bidule électronique qui fait, qui sort ses scores, ses chiffres et tout ça. Et après, c'est analysé par ordinateur et on voit si l'écart, s'il y a eu un écart statistique ou non par rapport au hasard, si l'écart il est faible ou si l'écart il est important. Donc là, ça fait depuis 40 ans que des recherches comme ça ont lieu. Progressivement, on a quand même de plus en plus de résultats qui attestent d'une influence de l'esprit sur la matière à cette échelle-là, c'est-à-dire à l'échelle de la micro-psychokinésie. On ne parle pas, ou de la micro-télékinèse, on ne parle pas du tout du pouvoir de l'esprit sur le fait de tordre une cuillère ou de soulever un meuble avec la pensée, hein, c'est pas ça. C'est à des niveaux d'énergie beaucoup plus faibles qui tiennent à des échelles qui sont celles de l'atome, de l'électron, etc. etc. Ça, c'est le premier point. Second point. Par rapport à des personnes à qui on a demandé des tâches comme ça et dont l'appareil électronique confirme qu'il y a une influence. Si on analyse l'activité cérébrale de ces personnes-là, on se rend compte que il y a des phénomènes qui se passent dans le cocktail des ondes cérébrales, hein, c'est-à-dire que la personne est un peu plus en onde alpha que la normale. Il y a plusieurs
en état modifié de conscience, une sorte de méditation quoi.
C'est ça, il y a une modification de l'activité cérébrale qui va de pair avec une aptitude à influencer l'environnement. Même si l'influence est bien entendu infiniment faible.
Oui.
Il y a en tout cas une modification de l'activité cérébrale. Et quand on compare ça avec des travaux qui ont été faits essentiellement en Chine depuis les années 80, parce que c'est depuis les années 80 que les maîtres en Qigong sont devenus en quelque sorte un peu... sont devenus officiellement, ils ont fait partie du patrimoine chinois de l'humanité, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment devenu, c'est un mélange entre des armes secrètes qu'il faut garder, qui sont nos armes secrètes à nous et qui permettent d'être meilleurs que les autres, et en même temps un patrimoine à préserver et à développer. Hein. Ouais. Il y a une forme d'ambivalence comme ça dans la gestion de cette ressource humaine que représentent les maîtres en Qigong pour le pouvoir central chinois. Donc quand, par rapport à des expériences qui ont été faites dès les années 80 sur l'activité cérébrale des maîtres en Qigong, quand ils sont dans un état de Qigong qui rayonne, qui a une influence sur l'environnement, bon, eh ben, on est aussi avec des modifications de l'activité cérébrale qui sont un peu du même genre que ce qu'on observe en Occident.
Oui.
Voilà.
Et donc là, il y a un parallèle tout à fait intéressant.
Exactement. Ouais. Et quand on fait aussi le parallèle avec les recherches qui sont faites depuis les années 95 entre les États-Unis et le Tibet avec le Dalai Lama, où on analyse l'activité cérébrale des moines tibétains qui méditent, on s'est rendu compte que plus le méditant est expérimenté, c'est-à-dire entre le novice qui médite depuis 5 ans et le maître tibétain qui médite depuis 25 ans, donc la vitesse de modification du cocktail cérébral est différente, c'est-à-dire ça va beaucoup plus vite pour celui qui a de l'expérience, et la profondeur en quelque sorte, l'état de zen, la profondeur de l'état intérieur est beaucoup plus présent dans le, sans s'en douter, hein, dans celui qui a de l'expérience par rapport au novice.
Évidemment.
Et on se retrouve avec les mêmes graduations de qualité de la méditation chez les maîtres en Qigong. C'est-à-dire entre quelqu'un qui fait du Qigong depuis 3 ans et quelqu'un qui fait du Qigong depuis 17 ans, eh bien, on va dire que l'état de calme intérieur, l'état cible, est atteint beaucoup plus rapidement, mettons en 1 minute et demie, pour celui qui fait de la méditation Qigong depuis très longtemps, alors qu'il faudra 5 ou 6 minutes pour celui qui débute. Et l'état de calme intérieur va en quelque sorte toucher beaucoup plus tout le cerveau pour un maître en Qigong expérimenté par rapport aux débutants.
Ouais. Justement, on a eu une question de Monique d'Avignon qui nous demande combien de temps de pratique nécessaire de Qigong pour avoir des résultats. Tout dépend de chacun, évidemment, des capacités de chacun, mais c'est pas quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain. Ça demande une longue pratique.
Oh oui, ça demande... Ça demande une longue pratique, mais en même temps, quand, si on en fait toutes les semaines 2h30, au bout de 2 mois, vous commencez à sentir une différence. Hein.
Ah oui, d'accord.
Mais oui. Oui, oui. Mais c'est évident. C'est-à-dire qu'il vaut mieux en faire un peu que pas du tout. Ça, c'est le premier point.
Oui, oui, oui.
Mais par contre, les effets positifs ou les effets bénéfiques liés à cette pratique, donc pour certaines personnes, ça va être des effets de type bien-être, de type méditation. C'est-à-dire qu'on va avoir une réduction du stress. Hein, c'est-à-dire que si on peut faire du Qigong pour être mieux dans sa peau parce qu'on est trop stressé, ou faire du Qigong parce qu'on a des problèmes de dos chroniques ou parce qu'on a des problèmes de digestion chronique. Vous voyez, les motifs pour lesquels on va faire du Qigong vont varier en fonction des personnes.
Donc là, ce qui veut dire que par la pensée et par cet état de méditation, on peut avoir une influence tout à fait certaine sur son propre corps.
C'est ce qui émerge des travaux quantitatifs qui sont faits depuis une dizaine d'années.
Oui.
Là, quand je vous parlais des analyses qui ont été faites de l'activité cérébrale des maîtres en Qigong, ça, c'est des travaux qui ont été faits dans les années 80 en Chine. Sur les histoires de l'effet préventif du Qigong par rapport à diverses pathologies, notamment celles qui émergent à partir du moment où on commence à entrer dans le troisième âge, dans le second versant de notre vie, en quelque sorte. Là, il y a des études qui montrent que oui, il y aura un effet préventif par rapport à Alzheimer, oui, il y aura un effet préventif par rapport à l'hypertension, oui, il y aura un effet préventif par rapport à encore une autre maladie, etc., etc., par rapport à Parkinson, etc., etc.
Ah oui, donc c'est pas négligeable, hein, loin de là.
Mais ce sont des études qui sont donc faites aux États-Unis depuis les années 98 à peu près, donc c'est pour ça que ça fait à peu près 6-8 ans maintenant que ces études ont débuté, donc ça fait 2-3 ans qu'on a des résultats, c'est-à-dire qu'on n'est plus avec des tendances qui sembleraient émerger, on est avec des résultats corroborés sur des échantillons de plusieurs milliers de personnes.
Mmh.
Évidemment, parce que ce sont les États-Unis, ce sont des études qui sont faites à grande échelle, hein, sur des quantités de pratiquants du Qigong assez importants, sur des dizaines de milliers de personnes, et voilà quoi. Hein. Donc on est sur une logique d'une activité de santé, de bien-être liée à la santé, qui est bien entendu entre guillemets financée par des centres de soins alternatifs.
Ouais.
C'est le contexte américain, quoi, qui permet d'avoir des études comme ça qui sont financées par des fonds privés.
Maxence Laillé, on n'aura pas le temps parce que là il est 23h39 et évidemment notre conversation malheureusement va s'arrêter à minuit dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio. J'aimerais que l'on passe à un autre domaine, qu'on parle du feng shui. Qu'est-ce que c'est d'abord? Et parce que ça découle également directement aussi de cette philosophie du chi ou du qi.
Oui, bien sûr, oui, bien entendu. Donc de la même façon que l'acupuncture, c'est le moyen de manipuler les énergies du corps humain, d'un être vivant, parce que on a parlé de l'homme, mais bien entendu, tous les êtres vivants, les mammifères, les chiens, les poulets, les chevaux, ont aussi des méridiens et des points d'acupuncture, les plantes éventuellement, bien sûr, aussi. Donc là, le feng shui, c'est la même chose, mais pour l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a de l'énergie présente dans notre environnement, donc dans les paysages, dans les forêts, dans toutes les choses qui composent l'environnement au sens écologie
terme,
ou environnementale du terme, quoi.
Ouais.
Et il y a des lignes qui parcourent ou qui structurent cet environnement, qui sont des lignes privilégiées de circulation d'énergie, c'est ce que traditionnellement on appelle les veines de dragon. Et il y a aussi bien entendu des points privilégiés pour manipuler cette énergie.
Oui, et c'est comme sur le corps humain finalement,
exactement,
ce que vous êtes en train de nous dire.
Exactement. Alors après, ce qui se passe, c'est le feng shui rajoutant. Le feng shui, il rajoute des choses en plus, en quelque sorte. C'est après tout le côté entre guillemets folklorique du feng shui, les histoires du miroir, les histoires de mettre un objet de couleur rouge, les histoires de tous les colifichets, tous les objets, les babioles qu'on peut mettre à droite ou à gauche et qui ont un effet. Mais Ça, c'est de la cosmétique, en fait. Hein. Ce sont des éléments cosmétiques par rapport au feng shui.
Ouais.
L'essentiel du feng shui, c'est vraiment une lecture des phénomènes de l'environnement, enfin de, des phénomènes de l'environnement,
oui.
comme étant des courants d'énergie qui se rencontrent, qui coexistent, qui cohabitent, qui s'entremêlent, et l'homme, au milieu de tout ça, il va habiter quelque part, où l'homme, il évolue là-dedans. Donc la connaissance de cet, cet environnement, de ces énergies de l'environnement,
oui.
permet d'optimiser
son adaptation, oui, son adaptation à cet environnement,
un endroit, ou le fait ouais. de rester en bonne santé parce qu'on est dans une vallée qui va être correctement éclairée, qui n'a pas trop de qui mortifère.
D'accord.
Voilà.
Ouais. Donc j'imagine que les architectes chinois ou asiatiques prennent ça en compte aussi avant même de dessiner, de concevoir un lieu d'habitation ou un lieu de vie en règle générale.
Pour ceux qui le prennent en compte, oui. Mais là encore, c'est toujours pareil. On a la moitié ou peut-être les trois quarts de l'Asie moderne qui ne prend pas en compte ces éléments-là,
ouais.
qui au sens qu'ils ne les prennent pas en compte pour prendre leurs décisions. C'est-à-dire on peut en parler entre nous comme on peut parler des rebooteux ou des choses comme ça, si vous les voyez.
Ouais, ouais.
Mais ça n'est pas pris en compte dans la décision. Mais par contre, il y a des immeubles entiers qui sont bâtis, notamment à Hong Kong, qui sont bâtis par rapport au principe du feng shui. Donc c'est les principes, c'est autant une histoire de matériaux qu'une surtout une histoire de on va dire d'orientation spatiale.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que si par exemple l'entrée d'un bâtiment fait face à une grande ligne droite, bon ben les lignes droites c'est l'ennemi de la vie du point de vue des Chinois. C'est-à-dire que un courant d'énergie qui est normal, qui donc parce qu'il est normal, il est bénéfique, hein, qui tel ouais. qu'il doit se présenter normalement, mm-hmm. c'est une courbe sinueuse. C'est vraiment, on peut reprendre vraiment les images d'un cours d'eau, hein. C'est
oui.
une courbe sinueuse.
D'accord.
Donc, une ligne droite, c'est une flèche.
C'est pas naturel.
C'est pas naturel. Et donc, du coup, ça transforme l'énergie, le qui, au lieu d'être un qui positif, qui prend son temps, qui s'enrichit de circonvolutions sur lui-même, etc.
Et qui s'adapte à son environnement, oui, oui.
Là, quand il va tout droit, eh bien, ça le rend tranchant, ça le rend cassant, ça le rend pointu, et ils utilisent par exemple le terme de flèche.
Oui,
c'est une ligne droite, c'est une flèche.
Ça correspond tout à fait à ça. Oui,
exactement. Donc par exemple, il y a, pour un immeuble qui va être confronté à ce problème-là, bon, ben, la solution du maître en feng shui, c'est de dire, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un mini rond-point devant l'entrée. Comme ça, ça casse la flèche qui vient pénétrer, qui autrement menace l'intérieur, qui menace l'entrée et l'intérieur du bâtiment.
Mm-hmm.
Voilà.
Oui, tout à fait. Et donc, en ce qui concerne cette même conception de la vie et de l'univers, la nature, si elle est sauvage et préservée, est naturellement équilibrée, donc.
À l'échelle du globe terrestre, sans doute, mais les maîtres en feng shui, c'est ça qui est marrant, c'est que tout est relatif, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont
ouais.
pas, ils sont, tout n'est pas si tranché que cela.
Mm-hmm.
C'est-à-dire
mm-hmm.
que il y a deux écoles. Il y a traditionnellement, on distingue deux écoles dans le feng shui. Il y a une école dite du paysage, c'est-à-dire que là, l'expert en feng shui se pose et regarde l'environnement.
Oui.
Et là, donc, ce qui va être des bosses ou des creux, ce qui va être en pente ou ce qui va être en montée, ce qui va être à l'ombre ou ce qui va être au soleil,
mm-hmm.
donc tout l'environnement est analysé comme ça par rapport à sa silhouette générale, à son allure.
Oui.
Et après, il y a l'école dite du compas, qui est par contre là une école tout aussi méthodique, mais qui est beaucoup plus... qui est quasiment mathématique, c'est-à-dire qu'on a ce compas, c'est comme une boussole, sauf que c'est une boussole où il y a quasiment une dizaine de cadrans différents
mm-hmm.
qu'on tourne.
Oui.
Donc il y a le cadran des saisons, il y a le cadran du calendrier, il y a le cadran des couleurs, il y a le cadran, il y a plein de cadrans comme il y a le cadran des constellations des étoiles,
mmh, oui,
des constellations
mais...
célestes, enfin voilà.
Ouais,
donc il y a comme ça un zoom arrière entre la maison va avoir sa porte à l'ouest et ses fenêtres au nord qui est mis en perspective par rapport à ok, ça veut dire que quand il sera en hiver, ça sera un certain type d'énergie qui va induire un certain contexte énergétique sur la maison qui va faire que si le gars il est célibataire à l'intérieur, il a intérêt à mettre du rouge dans la pièce numéro 4 parce que comme ça, ça va contrebalancer le déséquilibre qui résulte de cette situation donnée.
Ah d'accord.
Donc vous voyez, on est vraiment sur une espèce de rééquilibrage de lecture des phénomènes comme étant mouvants, enfin comme étant complexes au sens où c'est plusieurs choses simultanées qui coexistent, comme étant mouvants parce que dans le temps ça évolue, et du coup qui demande des contre-mesures adaptées pour préserver un équilibre qui lui est source de prospérité.
Oui, 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 ouais, tout à fait. Et tout en sachant que, comme vous l'avez rappelé, ben, tout est en mouvement et donc tout évolue, évidemment.
Voilà. Maxence... c'est assez vertigineux.
Ah oui, non, non, mais en même temps, c'est extrêmement intéressant. Ça apporte un éclairage tout à fait nouveau, disons qu'une manière nouvelle d'envisager les choses pour nous occidentaux, et ça enrichit au contraire le regard que l'on peut porter sur les choses.
Voilà. Maxence Lahi, oui. Ça, c'est juste pour. Poursuivre juste sur un aspect, peut-être ça va ça correspond au point suivant.
Ouais.
Ça c'est ce que vont dire là les Chinois en eux-mêmes ou la tradition chinoise en elle-même.
Mm-hmm.
Mais quand on regarde on change de lunettes et qu'on adopte celle de l'occidental, sur la question des couleurs par exemple, depuis une quinzaine d'années, la médecine environnementale occidentale confirme l'influence des couleurs sur la physiologie humaine, sur le métabolisme. C'est-à-dire que de travailler dans un environnement où les murs sont rouges, ça génère pas la même pression artérielle que de travailler dans un environnement où les murs sont bleus ou verts.
Exact, on en parlait dans cette émission, effectivement. Effectivement. Vous restez avec nous, on en parlera en détail puisque vous citez le cas d'une équipe en Espagne de médecins qui soignent des brûlures avec une simple lampe de poche et des filtres de couleur. Ça c'est intéressant, on va en venir là-dessus juste après la pause. Maxence Lahi donc est mon invité, c'est l'auteur d'un livre passionnant qui s'intitule « L'énergie secrète de l'univers » aux éditions Guy Trédaniel. Une pause et on parle des travaux justement de ces médecins espagnols.
Les aventuriers de l'étrange.
Avec mon invité, le journaliste scientifique Maxence Lahi, qui est l'auteur de ce livre paru aux éditions Guy Trédaniel. Le titre de ce livre, L'énergie secrète de l'univers. Juste avant la pause, Maxence Lahi, nous parlions de l'énergie des couleurs, enfin du moins l'influence des couleurs. Vous nous le disiez, vous nous citiez que l'exemple d'une chambre rouge, d'une pièce entièrement rouge, provoquait l'accélération, c'est ça, du rythme cardiaque. Chez les personnes qui rentrent. Et vous citez dans votre livre en Espagne des médecins qui soignent des brûlures avec une simple lampe de poche et des filtres de couleur.
Oui, c'est ça. Donc ce sont des médecins en Espagne. Bon, il y en a un peu partout dans le monde.
Ouais, ouais, ouais.
La méthode initialement, c'est une méthode française qui a été développée qui a été mise au point, qui a été découverte par un médecin de la région parisienne.
Mm-hmm.
Qui est neuropsychologue, qui est vraiment médecin aux sciences dures, plutôt par rapport au système nerveux, par ailleurs il était acupuncteur. Et puis, mais il y avait des choses qui n'allaient pas par rapport au savoir traditionnel des Chinois, et il y avait comme il était acupuncteur professionnel, il avait un recul sur sa pratique où il y avait quand même des petites contradictions qui le gênaient, quoi, par rapport à tous ces auteurs historiques qui ont chacun fait des textes ancestraux où chacun y va de son commentaire, et puis ça a été rédigé il y a 3000 ans, donc il y a eu quand même pas mal de versions entre-temps, et des fois il y a un peu des contradictions dans le détail. Donc il était confronté à ces phénomènes-là et il a un peu décidé de tout remettre à plat, et au final il est arrivé à cette approche fondée sur les couleurs. Donc il y a 6 couleurs de base qu'il utilise pour soigner, qui sont pour lui des énergies, bien sûr. Ces couleurs, elles entraînent, quand on expose le corps à l'une de ces 6 couleurs, elles entraînent des réponses du corps par rapport à cette énergie qui arrive. Donc on a la couleur qui correspond à un signal qui entraîne une réponse du côté de l'organisme, ou en tout cas de la zone des tissus du corps qui sont exposés à cette couleur par rapport à une zone qui a un problème, quoi.
Voilà. Ouais, ouais.
Voilà.
Et donc on peut arriver à avoir des réponses curatives.
Exactement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est passionnant, c'est vertigineux, c'est passionnant. On a quelque part de la chance de vivre à l'époque dans laquelle on est, quoi, puisque cette méthode qui s'appelle la chromatothérapie,
ouais, c'est ça,
elle existe depuis le début des années 80 à peu près, 1980, Et depuis 2-3 ans, il y a eu des parutions scientifiques liées à cette méthode. Puisque on pourrait se dire que c'est psychosomatique, l'effet de cicatrisation des tissus cutanés dans le cas d'une blessure ou dans le cas d'une engelure. Enfin, il y a des réponses qui sont spectaculaires, au sens où la cicatrisation des tissus, la guérison qui survient, on est vraiment sur une accélération de la cicatrisation. Ce qui fait que, y compris sur les côtés, sur l'aspect cicatrice, il n'y en a quasiment pas. Ou en tout cas, elles sont très très réduites par rapport à un traitement habituel.
Ouais.
Okay,
ouais.
Bon, donc là, je crois que c'est avec l'université de Châtenay-Malabry, là, dans la région parisienne, dans les années 2002-2003, ils ont pris des souris audiosensibles, c'est-à-dire des souris qui ont été modifiées génétiquement parlant, et qui ont la particularité de... On peut leur provoquer à la demande des crises d'épilepsie. Et donc c'est un protocole, c'est une méthodologie qui est connue, puisque c'est comme ça qu'on va tester l'efficacité de traitements expérimentaux, médicaments, de molécules chimiques qui vont soigner ou pas l'épilepsie.
D'accord.
Donc on soumet les souris à un son strident, les souris claquent liées à l'attaque sonore, elles vont faire une crise d'épilepsie. Et une crise d'épilepsie, ça commence par un temps. Il y a différentes étapes. Il y a un temps de latence, il y a un temps d'agitation, il y a la crise proprement dit, puis après il y a un temps de récupération et de repos.
Oui.
Et donc, par rapport au groupe et aux échantillons de souris qui étaient soumises à ce son, il y en a certaines qui ont été préalablement soumises à une minute d'orange, à une minute de rouge, à une minute de bleu, à une minute de vert. Enfin, il y a les 6 couleurs utilisées qui vont du bleu, du vert au violet.
Oui.
Et il y a l'orange également. Donc voilà, c'est un peu vraiment les 6 couleurs de base. Donc les souris sont exposées et ça dure 50 secondes à peu près. Et après, on leur fait la crise d'épilepsie.
D'accord.
Et il se trouve que dans les 6 couleurs utilisées, parce que les 6 ont été testées, y en a une, c'est-à-dire la souris est confrontée au même son, à la même puissance sonore, à la même durée. Le seul élément qui change,
c'est la couleur
à laquelle ils sont exposés avant l'expérience.
D'accord.
Et en sortie, à l'arrivée, on a des groupes de souris qui meurent à la fin de la crise d'épilepsie, et des groupes de souris qui sont en meilleure santé, qui récupèrent beaucoup plus vite, qui ont une crise d'épilepsie, entre guillemets, beaucoup moins grave,
qui
elles avaient pris des médicaments antiépileptiques.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a un résultat simplement en ayant changé de couleur qui est soit extrêmement aggravant, qui aggrave la conséquence de la crise d'épilepsie, soit une exposition à la couleur qui génère une réponse qui est de l'ordre du mieux-être, équivalent, voire supérieur au meilleur antiépileptique présent sur le marché en termes de molécules chimiques aujourd'hui présentes.
C'est bluffant, hein.
Là, c'est assez hallucinant.
Et la couleur, c'est laquelle, vous vous en souvenez?
Alors, écoutez, si mes souvenirs sont bons, je sais que celle qui est terrifiante, c'est le violet. C'est-à-dire, c'est suite à du violet
que les souris
s'en remettent pas, quoi.
Ouais.
Et par contre, c'est l'effet protecteur, c'est le jaune. C'est une couleur jaune.
Ouais.
Alors, dans la conception de la chromatothérapie, ces couleurs, elles sont effectivement pas utilisées au hasard. Si on veut rentrer dans le détail de la physique fondamentale qui est derrière, ce sont des longueurs d'onde de lumière colorées extrêmement particulières qui sont utilisées. C'est-à-dire que c'est pas simplement un rouge, c'est une longueur d'onde du rouge en particulier ou une autre longueur d'onde du rouge.
C'est-à-dire qu'à chaque
type de pathologie, c'est une longueur d'onde donnée qui va être utilisée. Et donc là, la couleur... Donc, ce qui fait que pour chaque les couleurs que j'ai citées, là, que ça soit le rouge, l'orange, le vert, le bleu ou le violet, voire le jaune, le travail qu'a fait Agrapar, qui est extraordinaire, c'est une mise en correspondance avec les énergies ou les gammes d'énergie de l'environnement que les Chinois ont identifiées traditionnellement.
Ouais.
C'est-à-dire les énergies froides, les énergies chaleur, les énergies humidité, sécheresse ou vent. Ce qui fait que le rouge correspond à de l'énergie froide, le vert à de l'énergie humide, le bleu à la sécheresse, le violet à du vent, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, par rapport à une agression extérieure qui va toucher le corps humain, c'est le cas par exemple d'une engelure, c'est de l'énergie froide, ou d'une brûlure, c'est de l'énergie chaleur par exemple.
Ouais.
Donc par rapport à à une attaque énergétique auquel on va être confronté via un accident domestique, hein,
oui, oui.
Hop, on va appliquer en réponse. Alors par contre, ce qu'il faut, c'est le faire très vite, hein, dans les, mm-hmm. dans les deux heures qui suivent. On oui, va oui. appliquer en réponse une
quel
exposition
type
de quelques minutes, hein, ou de 1 minute et demie à une couleur donnée.
Oui.
Là, donc, c'est quand même pas quelque chose que tout le monde peut faire. C'est uniquement les personnes qui sont formées à la technique, qui savent comment le faire et quelle longueur d'onde sélectionner, hein. Et après, on reste dans le noir. C'est-à-dire que la dernière information colorée qu'a reçue l'organisme, c'est cette couleur. Et mmh. après, pendant 5-10 minutes, on reste dans le noir.
Voilà.
Histoire de laisser reposer,
ouais,
de
ouais.
laisser la peau absorber la couleur.
Ouais, ouais, ouais.
Et puis donc, ben, depuis 20 ans, il semble qu'il y a des effets plutôt bénéfiques liés à cette mmh. approche.
Vraiment étonnant. Maxence Layet, malheureusement, il est l'heure de se séparer. Je vous remercie vraiment d'avoir passé ces deux heures en notre compagnie sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'Étrange. Et puis, je sais que vous allez venir à Toulouse, dans notre Grand Sud, très prochainement pour une conférence. Ce sera dans 2 mois, je crois, hein, à peu près.
Oui, c'est ça. C'est le 19 avril.
Voilà, le 19 avril. Et c'est à la librairie toulousaine L'Incunable. Hein, c'est
exactement.
Ça voilà. Donc, à la librairie toulousaine L'Incunable.
Le
19 avril, vous pouvez vous renseigner sur le site de cette librairie, l'incunable.fr ou .com, quelque chose comme ça. Enfin, vous tapez sur Google et vous allez.
C'est L'Incunable à Toulouse.
Voilà. L'Incunable à Toulouse, exactement. Merci beaucoup, Maxence Layet.
Merci à vous de votre invitation.
C'était avec plaisir. Bonne fin de soirée. Je rappelle le titre, donc, de ce livre, L'énergie secrète de l'univers, que je vous recommande, de Maxence Layet. C'est aux éditions Guy Trédaniel, éditeur. Il est l'heure de se séparer. Je vous retrouverai bien entendu avec grand plaisir la semaine prochaine à partir de 22h jusqu'à minuit, samedi et dimanche. Et je suis à la recherche de témoignages de gens superstitieux. Qu'est-ce que la superstition pour vous si vous l'utilisez? Vous nous appelez au 0826 300 300. Merci à Mathieu qui a réalisé cette émission, Morad qui était au standard et Pierre Massias qui m'aide comme d'habitude à la fabriquer. À la semaine prochaine. Bonne semaine sur Sud Radio.